Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour cette dernière édition du service après-vente de la F1 de la saison 2009 consacrée au Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors que les voitures sont rentrées au garage, certaines définitivement, la saison 2009 touchait à son crépuscule, à l'occasion du Grand Prix du crépuscule justement. Si au vu des premières images, le doute était permis quant à l'intérêt de la course et que le soulagement était de mise d'avoir vu les deux championnats se jouer au Brésil, force est de constater tout de même que nous avons assisté à une dernière levée de Grand Prix digne d'un final de saison et animé comme il se doit pour tout championnat qui se respecte par ses principaux acteurs. Si Lewis Hamilton a prouvé tout au long du week-end que l'abandon de sa couronne n'était qu'un incident de parcours, la Scuderia Ferrari a bu une dernière fois la tasse en cette fin de saison, et en plein milieu du désert, il faut le faire. L'équateur d'acteurs du championnat nous a quant à lui régalé, chacun avec son moment de gloire. Rubens Barrichello en se rasant la moustache dès le départ, Sébastien Vettel en dominant un Lewis Hamilton affaibli, Marc Weber en défendant, comme à l'accoutumée, chèrement sa peau, et Jenson Button en se sortant un peu plus les doigts de là où vous savez. Mais le fait marquant de cette 18e émission de la saison est bel et bien mon retour aux affaires. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis de retour. Sans la moindre consultation populaire, ni élection, ni plébiscite, je reprendrai pendant cette émission le pouvoir d'une main ferme. Mes prédécesseurs ne se seront sans doute pas laissés berner par cette vacance du pouvoir pendant deux émissions et savent déjà qu'en reprenant ainsi les rênes, je mettrai fin au débat où je n'aurai pas le dernier mot. Mes chers auditeurs, en mon nom et en lui seul, je défendrai le concours top à position contre les tentatives d'enzoïcisme qui ont eu lieu au cours des dernières émissions. Oui, j'ai fait croire que j'avais changé, mais que nenni. Le SAV de la F1 du Grand Prix d'Abu Dhabi restera dans la mémoire du SAV comme les victoires d'Ivan le Terrible ou d'Attila le 1 en l'histoire de l'humanité. Je ferai régner ma parole sans partage. Je parlerai de moi-même à la troisième personne. Non, d'ailleurs, il parlera même à la troisième personne. Il coupera ses compagnons de route et les torturera en faisant durer l'émission jusqu'à plus d'heure. Malgré tout, faisant preuve de magnanimité et parce que nous avons déjà passé ensemble 30 heures, 53 minutes et 52 secondes depuis le début de la saison, il ne fera rien de cela. Enfin, je ne ferai rien de cela. Et je vous demande donc d'accueillir, comme il se doit, dans un tonnerre d'applaudissements, mes deux comparses de cette saison. Bonjour Shinji. Bonjour Enzo.
Bonjour.
Bonjour.
Donc bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est qui le patron?
Ave César, ceux qui vont mourir te saluent.
Voilà, et vous allez crever ce soir. Alors, t'as bien compris Enzo, c'est le concours top pas position.
Trop tard, j'ai déjà enregistré.
C'est pas grave, au montage je rétablirai la vérité historique. Hein? Parce que non seulement je contrôle le pouvoir hégémonique de cette émission, mais en plus je contrôle les médias, et donc je pourrais faire dire à cette émission ce que je veux qu'elle dise.
Je m'attends au pire, je sais pas pourquoi je m'attends au pire.
À la base, j'avais quand même prévu de faire ce discours sur la musique de la marche impériale, mais je me suis dit non, ça suffit en soi.
Ah, ça l'aurait fait pourtant.
Ah ouais.
Ah bah, allez, peut-être que je vais rajouter après. Donc. Et après, on dit que c'est de ma faute si on fait des émissions qui durent 3
heures. Chaque fois que tu vas parler, je vais mettre cette musique.
Donc. Donc, pour commencer cette émission, comme à l'accoutumée depuis, pas le début de la saison, mais depuis pas mal de temps quand même, on va commencer par le traditionnel chiffre inutile de Shinji avec son petit jingle.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le chiffre inutile de Shinji. Un chiffre inutile, mais qui peut vous éviter d'avoir l'air con en soirée.
Dernier chiffre de la saison.
Tout court, non?
On verra. On verra.
J'adore Enzo qui s'est dit depuis deux semaines. Ah putain, plus qu'un, après on a fini.
Plus qu'un. Donc, chiffre qui concerne Abu Dhabi, pays de toutes les grandeurs, toutes les excentricités.
Oh, ça sent le plus gros chiffre de l'année, ça.
Ça sent un chiffre gigantesque, un chiffre énorme.
Deux.
Le chiffre de cette semaine est le chiffre 0.
Ah non, mais c'est pas un chiffre, zéro.
C'est un chiffre. Et pour vous aider, deux indices. Ça n'est ni quelque chose d'interdit à Abu Dhabi, ni quelque chose qui n'existe pas actuellement.
Zéro.
Bah, ils sont partis de, c'est un pays qui est parti de zéro avant. Il y avait rien et puis ils sont partis de zéro.
Bah, il y avait du sable avant.
Mais ils sont partis de zéro. Il y avait rien. À part du sable.
Oui, mais c'est pas ça.
Est-ce que c'est un zéro arrondi? Donc, est-ce que ça serait par exemple 0,003?
Non,
on aurait arrondi. Ah, c'est zéro tout rond.
Est-ce que c'est le résultat d'un calcul?
Non, c'est pas le résultat d'un calcul.
C'est le nombre de présidents qu'il y a eu au...
En effet, il y a eu zéro.
Pandas.
C'est la densité dans les zones désertiques.
Non, c'est pas une densité.
C'est une mesure.
Ah, c'était quoi le truc con qu'on a eu la dernière fois là?
Oh, bon. Actuellement, il y en a.
Le nombre de dialectes qu'il y a en à Abu Dhabi.
La pizza non, la plus c'est... grande qu'on ait jamais fait à Abu Dhabi.
Non.
Zéro.
Donc ça n'a aucun rapport avec quelque chose qui est interdit ou qui n'y a pas à Abu Dhabi. Donc c'est quelque chose qui est à Abu Dhabi. Est-ce que c'est quelque chose?
C'est une mesure.
C'est un pourcentage.
C'est un pourcentage.
Non, c'est...
Il n'y a pas d'impôt.
Non.
Oh la vache, j'ai cru. Chaque fois, je crois qu'il existe VIP.
Actuellement, il y en a.
Il n'y aura plus d'impôt.
Ah, c'est un truc...
C'est quelque chose dans le futur, mais...
Ah, zéro.
C'est pas les impôts.
Une DeLorean.
Non.
Non. Bah, le nombre de...
Je suis sincère, chers auditeurs, d'avoir ri à ma blague, parce que c'était drôle.
Pourquoi?
J'ai dit une DeLorean, et il a dit que c'est quelque chose dans le futur. Une DeLorean, c'est...
Ah, oh. Oh.
Bravo, Yannick.
C'est nul.
Ah, ben, bah, les auditeurs...
Pourtant, je suis fan de la série. Hein. ouais, la trilogie. C'est le nombre de chômeurs actuellement à Abu Dhabi. Non, c'est un pourcentage.
C'est un pourcentage, c'est une valeur économique?
Enfin, c'est même pas vraiment un pourcentage, c'est zéro de tant de choses.
Ah, 0% de temps? Zéro sur quelque chose?
C'est la part de quelque chose.
C'est pas un pourcentage.
Bon,
c'est la part de quelque chose sur quelque chose.
Bah, ça serait zéro, hein, si c'était zéro sur quelque chose, ça fait zéro.
C'est zéro.
Donc c'est un pourcentage.
Non. C'est le chiffre le plus incompréhensible de l'histoire du SAV.
Je sais, j'ai trouvé.
Oui.
J'ai trouvé.
Oui.
Zéro. C'est ta note globale des chiffres inutiles sur la saison.
Nouvel indice, ils vont construire quelque chose, et dans ce quelque chose, il y aura zéro de quelque chose.
Un truc sur Ferrari, il n'y aura aucune Ferrari. Aucune vraie Ferrari.
Ils vont pas.
Non, ça va. Dans Ferrari World, il y aura quand même des Ferrari.
Ils vont construire une piste de ski, et il fera zéro degré.
Ça existe pas déjà, ça?
Merde.
Ah, pas ici.
Ils vont construire quelque chose et il y aura zéro, mais il y aura zéro personne, il y aura zéro euro.
C'est même étonnant qu'il y ait du monde et que justement il y ait zéro de ces choses-là.
Eh ben, ils vont faire un truc où.
Zéro siège?
Tu seras dans le vide.
Non, tu seras pas dans le vide. Je peux même vous dire que ça sera à proximité de l'aéroport international. Environ 30 km à l'est d'Abu Dhabi.
C'est le nombre de... Ah, je sais, peut-être. C'est le nombre de spectateurs qu'il y avait au concert des To Be Free à Abu Dhabi.
Mais j'ai To Be Too.
Non.
Ah, pardon. Non, et c'était pas des Worlds Apart.
Worlds Apart, ouais.
Je peux même vous dire que ça s'étendra sur 6 km et demi. Kilomètres carrés.
6 km. Plus on avance, moi je pile. Chers auditeurs, moi je pile rien.
6 km carrés, il y aura 0.
Il y aura un truc, et ce truc fera 0 machin.
C'est pas un endroit, ce sera pas le seul endroit sur Terre où vous pourrez rentrer dedans et il y aura 0 G de gravité.
Non, ils font des trucs dingues à Abu Dhabi, mais pas ça.
Ça serait énorme ça, j'en rêve, moi je prends tout de suite l'avion.
C'est un truc, vu du ciel, ça fera un 0?
Non.
C'est un truc... Non mais, on est paumé là, on est 2-0 en train de chercher ce que veut dire 0.
Nouvel indice, c'est 6 km et demi, ça sera une ville.
C'est une ville qui s'appellera 0.
Il n'y aura pas de voiture.
Entre autres.
Il n'y aura pas de route.
Il n'y aura pas de piétons. Il n'y aura pas d'habitants.
Si, il y aura des piétons.
Il n'y aura pas d'habitation.
Il n'y aura pas d'électricité.
Si.
0 CO2.
Bravo Enzo.
C'est nul.
Ils vont construire la première ville.
Tu dis ça parce que c'est pas toi qui as trouvé.
Non, non, mais sérieux, c'est nul, quoi. C'est en CO2. Oh, non, mais on enchaîne les trucs, là. Ah, vivement la fin.
Je trouve ça très intelligent.
Heureusement que ça va être après, la...
Parce que nous, on fait dans l'écolo. Après la sauvegarde de l'Amazonie et des espèces.
Voilà.
Shinji est pro-écolo. D'ailleurs, on se demande pourquoi il suit la F1. Hein.
Non, c'est un hasard, hein, le fait que les thèmes se ressemblent. Donc, la ville va s'appeler Masdar. Ce sera la première ville 100% écologique au
ça
monde.
Ça ressemble juste à Mazda, mais c'est pas grave.
Oui.
C'est super cool.
Donc, pas,
ça, non,
pas
ça vient, d'électricité. Ça vient de l'arabe et ça veut dire source.
Pas d'électricité.
Il y aura l'électricité. Ça sera la première ville écologique modèle. Sans émissions de carbone et sans déchets. Enfin, sans déchets, en tout cas, ils vont tous être
traités. En fait, si tu veux, ils ont une...
Ils ont rien compétent, les gens, ils font du CO2.
Non, mais si tu veux, en fait, c'est une ville... Dans la ville, t'as pas d'usine nucléaire ou t'as pas d'usine pétrole. Tout est à la frontière de la ville, c'est en dehors de la ville, mais t'as rien à l'intérieur.
Une approche bioclimatique a impliqué que la ville soit conçue de manière compacte et pour partie enterrée. Les ruelles seront étroites, donc fraîches. Le plan général est de type traditionnel, carré et entouré de murs destinés à la protéger des vents chauds du désert. Les transports, les moyens de transport doux comme la marche à pied et le vélo y seront largement privilégiés. Il n'y aura pas de voitures.
Même pas des voitures.
Il y aura un tramway 100% écologique.
Ça confirme ce que je pensais, ils sont complètement starbés dans ce pays.
En fait, ça sera des transports rapides personnels. Le réseau sera doté sous la surface du sol d'une multitude de monorails qui s'entrecroiseront.
Ce qui est quand même génial, c'est que on est au pays de la bagnole où les mecs pour aller acheter leur baguette de pain, ils ont une Ferrari
et ils vont construire un truc sans bagnole.
Dis-toi, j'aimerais bien savoir combien ça va consommer de CO2 justement rien que pour fabriquer tout ce bordel.
Ouais. Donc ça sera des cabines de taille moyenne de 1 à 10 personnes qui pourront être appelées par pression d'un bouton en station. Et qui choisiront en fonction du trafic et des trajets possibles le plus court chemin. Et ça s'occupera aussi de l'évacuation des déchets et du fret. Alors, au niveau du recyclage, l'objectif c'est de réduire la consommation d'eau de mer dessalée de 80%. Ça consomme beaucoup d'énergie et c'est productrice de saumures polluantes. Les eaux usées seront utilisées pour l'irrigation des cultures destinées à l'alimentation et à la production de biocarburants. Et donc pour l'électricité, ils vont utiliser à fond l'énergie solaire, puisqu'il prévoit déjà une centrale solaire de 100 MW qui pourra être étendue à 500 MW. L'électricité sera générée par des panneaux photovoltaïques et l'air conditionné. Parce que tant qu'ils font un truc écolo, ils pensent quand même à l'air conditionné. Il sera aussi produit par l'énergie solaire. Et donc, ils sont en train de construire ça. C'est prévu pour 2016. Et ils espèrent que la ville accueille 50 000 personnes. Wow. Ils prévoient quand même des industries, hein, 1500 entreprises. Il ne faudra pas que ça pollue.
Tu sais, tu fais venir Total en plein milieu. Non, mais ce qui serait quand même génial, c'est qu'en faisant les travaux, ils découvrent un gisement de pétrole.
Pétrole.
Ça serait énorme.
Et ça sera aussi le siège d'une université spécialisée dans les énergies renouvelables. Voilà, encore un truc de taré comme seuls les Émirats sont capables de faire. Quoi.
Eh ben.
Bon, n'empêche, bon, c'est la dernière émission de la saison, donc CG... Bon, tu peux peut-être nous dire ton secret. En fait, pour le chiffre inutile, t'as des rabatteurs, tu te drogues, c'est quoi exactement?
C'est lui qui crée lui-même les articles Wikipédia.
D'accord.
Ah, pour info, le coût, hein, c'est 15 milliards de dollars.
Pouf, oui, bagatelle.
Rien que ça.
C'est baguette, hein, rien que ça.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 15 milliards, nous?
Le prix d'une baguette?
Un grand prix, enfin, une piste.
Oui, parce que je crois que le, je sais plus combien.
C'est plus que ça, hein. C'est plus que ça. Enfin, c'est pour toute l'île.
Oui, le centre de Marina a coûté,
45 000 employés qui ont bossé 24 heures sur 24 pendant 18 mois.
Ouais, je crois. Donc, on passe à l'actualité?
Oui!
Donc, le format habituel de quelques grands prix, on parle d'une grosse actu, et puis après chacun donne son actu. Comme grosse actu, tout simplement, je pense qu'on peut revenir sur le circuit d'Abu Dhabi. Nouvelle piste, nouveau Grand Prix. Tout simplement, qu'en pensez-vous? Quels sont les points positifs et points négatifs?
Que Senna se traînait quand il tournait dessus.
ouais, c'est vrai.
Senna avait une biplace Minardi, hein, quand même.
Oui, mais il se traînait quand même.
Bah, ils découvraient.
Parce que franchement, quand on a vu les caméras embarquées, c'était autrement plus impressionnant, quoi.
La piste est rapide. Les caméras étaient super bien placées.
Ouais.
Mais je crois aussi que pour la première fois, ils ont diffusé le Grand Prix en HD. Hein.
Ouais.
Oui.
Donc, il y a aussi ça.
Bah, ça dépend si tu regardes sur toi la télévision 36 ans.
Ouais, ouais.
Avec tube cathodique, le HD, t'en as un petit peu
rien. Non, mais...
Donc, apparemment, vous sentez, enfin, c'est un petit peu la tendance qu'on a eue sur le site et ben, moi-même, hein, c'était mieux que ce qu'on s'attendait.
Voilà, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas la piste du siècle, on est bien d'accord.
Bah, du 21e peut-être.
Voilà, mais c'est vrai que, honnêtement, quand on pensait
on s'attendait à pire.
On s'attendait en gros à Valence l'an dernier. C'est vrai que ça avait un air de circuit urbain.
Mais au départ,
oui,
ce qui était prévu, c'était de faire un mélange urbain et circuit naturel, entre guillemets.
Ouais.
Avec le fameux projet de faire un raidillon de l'eau rouge inversé. Donc un rouge eau raidillon.
On n'a pas trop vu, même.
Mais
il y a deux boss.
Ils ont dû changer leur plan. Donc en fait, ils se sont tournés vers un circuit traditionnel. Donc ils ont abandonné tout le projet de raidillon de l'eau rouge, etc.
Mais c'est vrai qu'avec tout l'environnement, ça donnait un peu une impression typée circuit urbain.
Ouais.
Ouais.
Et mais donc après, ça a beaucoup plu aux pilotes, apparemment, les murs très près.
Parce que piste large, donc c'était agréable aussi.
Je crois que c'est Robert Kubica qui a dit, quand vous êtes sur un circuit où vous savez, vous avez 15 mètres de dégagement de chaque côté, bah, vous faites un peu n'importe quoi, vous allez prendre trop large, il n'y a rien d'amusant, il n'y a pas de challenge.
Ouais.
Alors que là, il a dit, ici, vous avez le mur, vous savez très bien que si vous allez trop loin, vous vous bouffez le mur. Donc, surtout que c'est une piste qui a fait faire beaucoup d'erreurs en essai et même jusqu'au qualif. Donc, il a dit, les murs, c'est très bien que ce soit justement proche.
Et alors, par contre, vous avez vu, pas d'herbe, pas de gravier. Hein. C'était que des typés un peu Paul Ricard, des bandes.
Paul Ricard, HTTP. Hein.
Alors, il y a ça, et quand tu dis pas d'herbe, il y avait quand même des zones d'herbe synthétique.
Ouais, il y avait des petites zones.
Qui, contrairement à Bahreïn, qui est un circuit planté en plein milieu du désert et triste, là, on avait quand même quelque chose d'assez agréable avec d'abord les bandes bleues et rouges de...
Que bleu.
Non, il y avait du rouge aussi.
Il y avait un petit peu de rouge.
C'était du rouge.
Non, c'était les Ferrari qui s'étaient écrasés.
Elle s'était liquéfiée sur place. Voilà. Mais il y avait surtout du bleu, mais il y avait du rouge. Parce qu'en fait, il y a plusieurs couleurs. Hein. Quand on voit la piste, c'est le Paul Ricard, il y a le bleu qui est...
Sur ces circuits-là, plus tu sors, plus le revêtement est abrasif. Voilà. Ça te nique complètement tes pneus, mais par contre, ça t'arrête réellement. Quoi. Et il n'y a aucun risque de tonneau, surtout. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la piste était large. Donc agréable et surtout il y avait des vraies possibilités de déplacement quoi.
Bah il y en avait deux belles, il y en avait bon il y avait celle au bout de la ligne droite, la grande ligne droite là, qui est peut-être un petit peu trop longue à mon goût mais.
Ouais c'est vrai que.
C'est sympa, t'as bien le temps de prendre l'aspiration quoi.
Un tracé un peu typé, d'ailleurs ça a été évoqué un peu au Hockenheim, donc avec deux sections très très rapides et la troisième par contre un peu stadium avec des virages
beaucoup
à 90
de virages,
degrés.
Et je pense que c'est aussi un circuit où il y a un compromis à faire. Entre favoriser les lignes droites et envoyer les Hamilton qui était rapide là avec le Kers d'autant plus et puis où les portions où tu voulais être plus rapide avec plus d'appui comme les Red Bull notamment où c'est un compromis quoi entre rapide en ligne droite ou rapide en
finalement le truc qui a plus le fait grincer les dents c'est la sortie des stands hein.
Oui bah il y a que ça d'ailleurs.
Ouais.
D'ailleurs, on comprend pas. Enfin, moi, je comprends pas.
Déjà, il y a l'entrée. Je sais pas. Pas trop pour les écuries. Surtout pour l'écurie qui était la plus en avant, c'était Brown.
Ah bah,
je sais pas, vous avez vu, mais pour sortir du stand.
Ouais.
Vous avez vu comment fallait braquer pour rentrer dans le tunnel.
Tout à fait.
Alors que
il y aura 4 écuries de plus.
C'est des stands où il y a 40 garages. Donc c'est ça aussi qui est pas compréhensible. Il y a 40 garages et pourtant.
Ouais, donc ils auraient pu décaler un peu en arrière pour que les Browns puissent repartir bien, quoi. Parce que là, il y a forcément un petit mur entre le côté stand et l'entrée.
En fait, apparemment,
il fallait quand même bien braquer, hein.
Mais c'est ça, en fait, que j'ai pas compris. C'est pourquoi, à la limite, ça te fait chier, sur les sorties des stands, ils se creusent pas beaucoup la tête. Ils ont déjà fait une sortie des stands un petit peu à chier à Singapour, et là ils sont partis nous chercher une idée de tunnel qui est sympathique et qui est de l'ordre du gadget, mais qui est sympathique. Alors qu'il suffisait juste de se creuser un peu la tête et pourquoi pas faire sur les deux premiers virages une piste parallèle, une très longue sortie des stands. Surtout que là, ce qui est dangereux, c'est qu'ils ont mis la ligne d'arrêt de chronométrage juste en haut de la descente.
Super.
À la limite, quitte à faire ça, autant qu'ils la mettent pour limiter le danger, qu'ils la mettent soit en plein milieu du tunnel, soit juste à la sortie du tunnel, et puis les mecs réaccélèrent à ce moment-là.
Ouais.
Mais là, c'était quand même sacrément con.
Et c'était fait pour prendre le truc à fond. Vous avez vu comment ça faisait. C'était impossible de le prendre à fond. On a vu les voitures souvent glisser de l'arrière. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'adhérence.
Ah, mais ils auraient surtout pu le faire plus large, ce tunnel, quoi.
Oui, c'est vrai.
Mais alors, apparemment, pour l'année prochaine, ça, c'est ce qui est le... On a eu un exemple au Brésil avec Yarno Trulli qui s'est bouffé un vibreur. Et puis, bah, dès que tu te bouffes le vibreur, tu pars en quenouille. Et là, ils t'ont mis deux énormes vibreurs de 1 mètre de chaque côté, où les pilotes étaient obligés de monter dessus, et les vibreurs, bah, sont plus glissants que la piste. Et les mecs, c'est quand même des mecs qui ont fait un circuit où tu dois avoir, entre guillemets, 15 à 20 hectares de bandes bleues, agrippantes.
C'est joli, hein!
Mais il y en a aucun qui a pensé à en mettre dans la ligne des stands, enfin, dans le... Ils auraient pu se dire, tiens, on va mettre dans les stands, quitte même à faire toute la surface du tunnel comme ça tu te dis au moins les mecs ils vont rentrer, ils vont être bien ralentis, quoi.
Par contre, l'emplacement fun pour les commissaires, c'est ceux qui étaient dans le tunnel. Ah ouais. Il y en avait deux dans le tunnel,
et c'était quand même le pied.
Ils voient rien, mais ils les voient de près les voitures. Ah, ça. Après, c'est dommage qu'il y ait que 50 000 places, quoi. Ce qui est un peu paradoxal quand tu vois les installations qui sont gigantesques, il y a que 50 000 spectateurs.
Et pourtant, on a l'impression
qu'il peut rester dans ta chambre d'hôtel et regarder ta chambre d'hôtel aussi, peut-être.
Alors, c'est justement ça, c'est que, juste après l'hôtel, vous avez un pont qui passe au-dessus du circuit. Et le truc totalement hallucinant, c'est que c'est un pont, sur les côtés, c'est du verre.
Oui.
Donc vous pouvez voir le circuit, les voitures qui passent en dessous. Donc j'ai trouvé ça génial. Et en même temps, vous dites, c'est un circuit. Alors qu'il y a certains circuits qui auraient ultra protégé les fans. Là, c'est un circuit qui fait confiance aux fans.
Il est super sécurisé. Donc, ils peuvent se permettre.
Par contre, il y a un truc qui m'a déçu. J'ai pas trouvé le circuit très beau de nuit.
Oh,
alors, c'est peut-être
nuit ou couchant?
De nuit. C'est peut-être parce que, surtout notamment au niveau de l'hôtel, toutes les maquettes qu'on a pu voir de l'hôtel et tout, l'hôtel était super clinquant, super coloré, et là il a juste des petits reflets de couleurs, donc.
C'était superbe, moi j'ai trouvé ça très très beau.
Moi j'ai même préféré de nuit que couchant.
Ah ouais, moi aussi. Hein.
Ouais. En plus, t'avais les bandes, tu sais, qui de jour étaient plus. Bleu mais turquoise tournant vers le vert et qui avec la niche avait un peu changé de couleur pour avoir un bleu beaucoup plus ciel et ça ressortait.
Non mais
c'était sympa.
Sur ça, j'ai le circuit en lui-même est beau sur la nuit et je trouve d'ailleurs que l'idée de crépuscule est pas mal parce que d'abord ça a créé du challenge.
Oui, ça c'est vrai que
des pneumatiques, ça a mis du piment et puis qu'en plus. Mais moi je m'attendais vraiment à un circuit beaucoup plus lumineux. Avec des lumières partout, avec pourquoi pas des spots, etc. Et je suis arrivé, le circuit très joli la nuit, hein, très la nuit, très lumineux la nuit. Puis j'ai bien aimé la lumière plus discrète, je trouve, et moins violente qu'à Singapour.
Oui.
Mais l'hôtel, moi j'ai trouvé l'hôtel, j'étais déçu. Il manquait de lumière. Je voulais qu'ils mettent des gros trucs, pas juste des LED. Moi, je voulais qu'ils mettent des lampes à incandescence, des spots et tout pour que ça soit bien claquant.
Ah, moi je l'ai trouvé très beau.
À voir comment ça évolue sur les années, quoi.
Donc, on passe à nos actus.
Oui.
Alors, vu, parce que je connais les actus de chacun, je propose, histoire de logique, de commencer par ma propre actu.
C'est toi le patron.
C'est toi le boss.
Ouais, c'est vrai en plus, merde, hein, oh. Donc, moi je voulais revenir sur l'écurie Renault qui a. Alors. L'écurie Renault qui, je vais pas dire a trouvé de nouveaux sponsors, mais qui est toujours attractive pour deux raisons. Oui. D'abord parce qu'on a appris la signature d'un nouveau sponsor, TW Steel, juste avant le Grand Prix. Alors savoir que c'est pas non plus un sponsor qui est arrivé les dernières semaines.
Non, c'est clair.
C'est un sponsor qui est en négociation depuis le printemps avec Renault. Renault qui cherchait à remplacer Chronotech, son ancien partenaire chronométreur. Ils étaient donc en négociation avec TW Steel, qui est un jeune fabricant de montres. Ces négociations se sont arrêtées à l'occasion du crash gate. Elles ont repris et ont finalement abouti, signe de confiance de TW Steel envers Renault. TW Steel qui fait quand même un pari, hein, parce que c'est une marque qui n'est pas connue et qui aurait pu être refroidie par l'idée de s'associer avec une écurie qui était dans le scandale il y a encore quelques semaines.
Et qui sera peut-être plus là l'an prochain.
Et tout à fait.
Ça, ouais.
Donc, TW Steel a signé un contrat de 3 ans.
Et on a aussi eu la confirmation d'un partenaire qui est Altran, qui a confirmé son engagement avec l'écurie. Donc signe tout de même que Renault, malgré le départ d'Alonso, malgré les crises incessantes, les mauvais résultats, etc., Renault reste une écurie attractive. Et moi, je me dis, TW Steel signe 3 ans avec Renault, se voit offrir par Renault une belle vitrine. Hein, c'est quand même le muse
ah, oui.
Les droits avant. C'est quasiment...
Renault lui a aussi offert ce dernier Grand Prix. Hein.
Oui.
Parce que normalement, le contrat ne commence qu'en 2010.
Voilà.
Mais, ouais. Ils ont pu, comme ils ont de la place, on va dire, sur leur voiture.
Voilà. Ils sont un petit peu.
On aura l'air moins con. On va mettre un sponsor pour faire croire, ça va peut-être en attirer d'autres.
Il y a aussi la grosse rumeur incitante en ce moment, donc de la revente d'une partie de Renault, qui est une rumeur qui court quand même depuis l'époque Briatore. Et moi, j'avais évoqué une théorie sur le blog concernant la revente. Sans doute que Renault, par l'idée de revendre toute la branche anglaise, donc c'est Enstone, c'est l'ancienne écurie Benetton, sans doute que par là, ce qu'ils veulent restituer, c'est tout simplement un équilibre qu'il y avait de fait par l'aura de Briatore. On sait très bien que Renault a beau être un constructeur, que dans au sein même de Renault, il y avait un équilibre qui n'est pas l'équilibre d'un constructeur, comme peut être l'équilibre au sein de Toyota ou de BMW, mais qui était plutôt l'écurie d'un partenaire technique très important, qui apporte de l'argent et finance l'écurie, une écurie ouais. qui reste dirigée qui reste fondamentalement Benetton. C'est très bien que Renault, c'est Benetton déguisé en Renault. Avec de l'argent Renault, ouais. avec un moteur Renault, mais ça reste Benetton au fond. Sauf que là, Renault, avec le départ de Briatore et de Pat Symonds, se retrouve avec, entre guillemets, toute une écurie à gérer. Et je pense que Renault, eux, se sont dit, la formule qui marche, c'est cette formule-là. Un peu à l'image de ce qui marche avec McLaren et Mercedes. McLaren,
ouais.
écurie implantée, solide et, entre guillemets, autogérée, qui est associée à un constructeur qui ramène de l'argent, qui participe au budget, et qui fournit un partenariat technique important. Si vous regardez les autres équipes, les autres constructeurs, que sont BMW ou Toyota, eux sont venus à 100% en tant que constructeurs, se sont pas associés à une structure, même si BMW c'est particulier parce qu'ils se sont associés à Sauber, mais on sait très bien que il y a eu une gestion imposée par BMW. Eux n'ont pas fait vraiment de résultats. Donc peut-être que Renault se dit, on va vendre une partie de notre équipe pour garder une espèce de double gestion interne, dans l'idée de maintenir un équilibre qui soit bon pour la direction, qui fasse aller dans la bonne direction, et qui, au final, soit productif. Mmh. C'est compliqué, ce que je viens de dire.
Non.
J'ai l'impression
un peu, on n'a pas tout compris, mais...
J'ai l'impression que c'est très clair dans ma tête, mais pas du tout clair, quand je le dis.
C'est un peu comme d'habitude, quoi.
Oh, mais...
Voilà.
Et t'as vu Cindy qui dit « voilà ». Ton pote, là.
Mais je peux rien lui dire, Cindy, on a traversé tellement de choses ensemble. Ah, le Cambodge. Ah.
Le Cambodge.
Ouais, une vieille histoire. Alors, à l'époque,
par contre, si on ne revend pas l'équipe, je sais pas si c'est un petit signe, mais toute l'équipe, vous savez, bien évidemment, ils ont plus les casquettes blanches ING.
Elles sont moches, leurs casquettes.
Celles qu'ils avaient là.
Ouais. Oui.
Ouais, vous avez vu, elles étaient noires et jaunes.
Ouais.
RF1
avec marqué
team.
RF1 Team.
Ouais.
Ouais. Est-ce que au cas où ils resteraient, ça serait pas un premier signe de à quoi va ressembler, on va dire, l'équipe l'an prochain, puisque ils ont plus les mêmes sponsors.
Ouais.
Franchement, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait.
Oui.
Une fois qu'ING est parti, quoi.
Mais je pense.
Mais ils sont pas tenus de garder, on va dire, plus ou moins la même livrée.
Bah déjà,
Non, ils ont le droit. Non, les deux voitures doivent avoir la même livrée.
Ça, normal, ouais.
Mais ils peuvent très bien changer pour des grands prix.
Ils sont tenus à moins d'avoir une dérogation consultée avec les équipes.
Oui, hein.
C'est justement ce qui était en discussion, mais il était question que pour le Brésil, ils aient une nouvelle livrée, justement, et il fallait qu'ils aient l'accord de toutes les équipes, et en fait, c'est eux qui ont renoncé en disant que ça servait à rien de faire une nouvelle livrée, puis de toute façon, je pense que le choix aurait été un peu hasardeux, quand même, de s'arrêter une rupture trop brutale. Je pense que vaut mieux incarner le changement dès 2010, et pas tout de suite incarner le changement, là, en changeant de livrée, alors qu'on a encore Alonso, qu'on a encore les stigmates du crash-gate. Mais ils sont théoriquement... alors, ils peuvent faire des modifications en fonction des sponsors, etc.
Il y a des choses légères, mais...
Mais une modification intégrale de la livrée, je pense que c'est surtout par rapport à la FOM, doit y avoir une question de droit et d'image.
Je pense pas.
Bah, chers auditeurs, on va, je crois que c'est TNT qui est assez bien proche de Renault, qui pourra peut-être nous donner des infos.
Ouais, bah alors si on lui fait confiance.
Peut-être falloir qu'on l'engage dans l'équipe celui-là.
Quelle équipe?
La nôtre. Le SAV F1 Team. qui va d'ailleurs fermer les portes bientôt. Bon voilà, moi mon actu c'était sur Renault.
Non, on va pas trop en dire, on va pas leur dire que c'est la dernière émission qu'on va faire.
Non, non.
C'est un peu trop dur quand même.
Gardons-leur la surprise pour la fin. Donc voilà, c'était juste une actu pour parler de Renault qui redevient dynamique et puis essayer de comprendre le futur de Renault qui est toujours aujourd'hui en question. Même si on semble avoir une certitude, c'est que Renault sera toujours là, au moins jusqu'en 2013. Renault sera théoriquement toujours là. Maintenant, sous quelle forme? Et est-ce que pour Renault, ça sera plutôt une forme constructeur 100%? Ou est-ce que par leur expérience et par la comparaison avec ce qu'ils ont vécu et l'exemple McLaren, est-ce qu'ils vont pas vouloir entretenir un équilibre interne qui soit un équilibre quasiment frontal?
C'est même positif pour la F1, hein, parce que vu la saison qu'ils ont fait, arriver à récupérer des sponsors, c'est quand même bon signe.
Ouais.
Mais sachant aussi que c'est peut-être aussi un calcul de la part du sponsor qui se dit en venant sponsoriser une écurie qui est un petit peu mal vue en ce moment, on va faire tu sais, c'est le chevalier blanc quoi, on va être
je pense que les contrats ils sont pas du même montant non plus, hein.
Non. Bah on sait par exemple pour TW Steel que Renault apparemment a dû faire d'importants compromis avec la marque pour avoir le contrat.
C'est clair.
On passe à l'actu de notre ami Shinji, qui est une actuelle d'après le Grand Prix.
C'est une actu d'après le Grand Prix. Alors, on a à peine commencé à aborder 2010 que déjà on a eu entre guillemets la première info de 2011.
Tous les ans, c'est pareil.
C'est hein, pas faux.
Puisque au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, les F1 n'ont plus de pneus pour 2011.
Bah, la F1 s'arrête en 2010. Hein.
Voilà, puisqu'on a appris que Bridgestone allait arrêter de fournir les pneus de la Formule 1 à la fin de la saison 2010. Donc à la fin, c'était un contrat de 3 ans, si je me rappelle bien, avec la FIA en tant que manufacturier unique. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas continuer. Donc en 2011, on aura un nouveau manufacturier. Est-ce que ça sera un nouveau? Est-ce que ça sera le retour d'un ancien? Alors, c'est quoi l'argument cette fois-ci? Parce que bon, avec tous les départs qu'on a eu en F1...
L'argument qui est très fort de Bridgestone, c'est que...
C'est un recentrage, c'est ça?
C'est un recentrage technologique pour mieux intégrer les technologies vertes. Donc grosso modo, ça veut dire qu'en Formule 1, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens. La Formule 1 ne leur sert pas à se concentrer sur les technologies vertes. Sauf qu'il y aurait concurrence entre deux constructeurs pneumatiques, ce que je ne souhaite pas personnellement. Mais il y aurait concurrence entre deux constructeurs pneumatiques.
Pourquoi ça t'a laissé un mauvais souvenir en 2005, peut-être?
Oui, mais c'est surtout, moi personnellement, si je suis pas pour la concurrence entre deux constructeurs pneumatiques, c'est que justement la rivalité Michelin-Bridgestone nous a montré que, alors déjà qu'on se plaint que les équipes ont trop, que la voiture a pris trop de place par rapport aux pilotes, et en plus on nous a rajouté le critère pneu. On se souvient quand même que en 2005, la Ferrari qui était pas à chier, hein, qui avait juste mal adaptée aux pneus, au final Ferrari n'a fait aucun résultat malgré Schumacher, malgré Ferrari, à cause de Bridgestone qui était tout simplement très en retard sur Michelin. Et moi, ça me fait un peu chier que en plus on rajoute encore un degré comme ça. Donc voilà. Mais ce qui est paradoxe, c'est que c'est Bridgestone grosso modo qui a un petit peu fait le forceps pour être le manufacturier unique.
Unique, ouais.
Et aujourd'hui, ils se barrent parce qu'ils peuvent plus développer une technologie verte. Ce qui aurait été bien s'ils avaient eu un opposant, quoi. Ce qui est pas le cas.
Ils auraient pu déjà essayer eux-mêmes, tout seuls, hein, de commencer à faire des choses, pas simplement foutre des rainures vertes pour dire, oh regardez, on fait journée de l'écolo ce week-end. Vous vous souvenez, c'était l'an dernier.
Ouais, on sera pas bien.
Alors la question, c'est qui va revenir maintenant?
On parle de Pirelli.
Ils équipent déjà le WRC.
Le truc, c'est que on a Michelin qui pourrait revenir, mais on sait que Michelin ne viendra pas.
Mais non, il viendra pas.
Ça dépend. Je suis pas forcément d'accord avec vous, pour la simple et bonne raison que ils étaient un peu en froid donc avec la FIA, mais n'oublions pas quand même que la tête de la FIA a changé et qu'on a Jean Todt, un Français, peut-être que Jean-Todd trouvera des arguments s'il y a un Grand Prix de France ou un truc comme ça.
Et ce qu'il voulait, c'était de la concurrence, hein.
Oui, oui, je sais bien.
Bon, il y a toujours l'hypothèse Goodyear, mais Goodyear, ça fait longtemps qu'ils se sont...
Non, Goodyear, ils ont dit que...
Voilà, ça fait longtemps qu'ils ont renoncé et qu'ils se sont repliés sur d'autres activités, donc...
Le marché américain, voilà. Surtout, hein.
Ouais.
Donc, qui donc?
Aaron.
Continental.
Oh non, bah... Continental, non, ça, il y a trop de problèmes avec les deux Continental. Donc, ça pourrait leur servir.
Des Hankook.
Mais c'est vrai qu'il y a Pirelli qui est présent.
Des pneus Noroto.
En fait, ça serait bon ça.
On va être obligé de les faire. Ah, une Ferrari Noroto. Alors, ça serait génial.
Anglebert, ça existe encore. Dunlop
Non, Anglebert, c'est Uniroyal. Et Uniroyal, en Europe, c'est Michelin.
Mais Firestone?
Non, Firestone, c'est Bridgestone.
Non, c'est Michelin.
Mais non, c'est le nom de Bridge aux États-Unis.
Ah non, oui, non, effectivement, c'est le nom de Bridge. C'est quoi qui est Michelin?
Dunlop?
Non. Uniroyal, c'est Michelin.
Non, il y a un...
Kléber, c'est Michelin.
Il y en a un autre, c'est Michelin.
Avon? Avon?
PF Goodrich, c'est Michelin.
PF Goodrich, voilà. Et peut-être que Michelin, justement, plutôt que de rentrer en son nom propre, pourrait rentrer en nom déguisé par PF Goodrich, par exemple. Moi, personnellement, je parie sur un petit constructeur. Enfin, un petit pneumaticien. Un petit, hein.
Ouais, le genre pas trop connu et qui veut profiter justement de la F1 pour se faire connect dans le monde entier, ouais.
Bien sûr, c'est une solution. Hein. Mm.
Donc voilà, c'est tout pour ton actu, Shinji?
Bah oui, parce que pour l'instant, on sait pas tout ce que c'est, 2000... ce qui se barre.
En 2011, on parle aussi du retour du Kers.
Ouais. Ouais.
Mais peut-être sous une autre forme.
Oui, voilà. Alors ça serait quasiment une conception hybride.
Voilà.
À partir du Kers Williams.
On parle soit voilà d'une solution hybride, soit justement c'est pas forcément le même système, la solution Williams quoi.
Ouais. Et qui intéresse des industries en dehors de la F1.
Bah, c'est le seul Kers d'ailleurs qui est exporté. Je crois que c'est le métro de Londres ou je sais plus, ouais. Plus quel métro qui a passé un contrat avec Williams pour la fourniture et qui en sera bientôt équipé. Donc on passe à l'actu d'Enzo.
Oui.
Qui est une actu en forme de bilan, je dirais, Enzo,
de bilan et puis aussi d'un petit sondage vis-à-vis de vous, quoi. Du moins, je vais vous tester un peu. En fait, c'est le ratio point budget de l'année 2009.
Point budget.
Et, alors, soit par pilote, soit par équipe. Alors, on va déjà faire par écurie. À votre avis, quelle est l'équipe qui a le plus mauvais ratio point budget?
Toyota?
Renault?
Eh ben, c'est Renault.
Waouh!
C'est Renault qui a dépensé, donc, qui a eu 26 points et qui a dépensé pas loin de 11 millions d'euros par point.
Et il finit 8e, hein.
T'es quand même énorme.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voyez aussi dans le top?
Dans les meilleurs?
Ferrari?
Non, dans les moins bons.
Ah, dans les moins bons?
Bah, Ferrari.
Cette année. Toyota, ouais.
Alors, Toyota, 5e.
Ouais, milieu, quoi.
BM?
Williams?
Il y a BM, effectivement, 3e, avec pas loin de 7 millions d'euros par point. Et il y a Toro Rosso, qui est 2e, avec 8,5 millions d'euros par point. Ils n'ont eu que 8 points, Toro Rosso.
Ouais, c'est vrai.
Contrairement à l'année dernière. Et donc après, si on parle dans l'autre sens, les meilleurs, en fait, ceux qui exploitent au mieux leurs dollars, on va dire.
Red Bull?
Bah non, Braun. Ils ont un petit budget et beaucoup de points. Donc.
Alors voilà, Braun, bien sûr, Braun, avec un demi-million
attends,
par point.
Attends, je devine. 552 000 points.
Ah, enfoiré. Suivi de Red Bull. Et troisième, étonnamment, c'est Ferrari.
Ah ouais.
Avec un peu plus de 4 millions d'euros par point, s'en sort pas trop mal quoi.
Mais Ferrari a jamais été dans les gros budgets de la F1, ça a plutôt été McLaren qui était avec Mercedes gros budget, mais Ferrari reste dans les gros budgets.
Quand même.
C'est un gros budget, on est d'accord.
Oui.
Mais c'est pas les plus gros budgets de la F1. Faudrait voir sur les dernières années, mais je pense pas que Ferrari devait être 4e ou 5e, mais jamais premier. En tout cas, du temps des constructeurs, jamais promis.
Et après, pour faire rapide au niveau des pilotes, donc celui qui a le...
Bah, Kimi.
Voilà, le plus mauvais...
Sans regarder, je sais que c'est Kimi.
c'est bien sûr Kimi, qui pour 48 points, on a 1,25 million Bah, par point.
Il touche 45 millions cette année. Et l'année prochaine, il risque de faire 0 point et toucher 45 millions.
Ouais. Et les meilleurs?
Les meilleurs.
Button?
Non, ça, c'est les mecs, tu sais, c'est les mecs qui ont marqué 1 point et qui touchent 1 million.
Ah ouais, c'est vrai.
Il doit y en avoir un dedans, genre, je sais pas, Sutil ou un truc dans le
Sutil, ouais.
Ah, Sutil, il est quatrième, donc, puisqu'il touche, il a 40 000 euros par mois. Non, physique est là, il est en milieu, on va dire. Le meilleur ratio, en fait, c'est Rubens Barrichello.
Oh. Ah bon?
Avec, ah ouais, 13 000 euros par point.
Une bouchée de pain.
Et attendez, il y a plus surprenant, on va dire. Vettel. 17 800 euros par point.
Ouais.
Et après, Button, 21 000 euros.
C'est pas du tout les mieux payés de la F1.
Il y a Sutil qui est quatrième.
On peut pas dire
dans
que c'est...
les cinq premiers, on a les quatre premiers du championnat puisque Weber est,
est cinquième. On peut pas dire que c'est les mieux payés. Faut quand même se dire, c'est le salaire divisé par le nombre de points. Donc automatiquement, c'est normal qu'on
retrouve
ceux qui ont marqué le plus de points. Par exemple, on voit Kazuki Nakajima deuxième, juste derrière Kimi Raikkonen. C'est un peu.
Alors ça, pour moi, je conteste un peu ce classement. Parce qu'il a marqué 1 million d'euros par point, mais il a marqué 0 points cette année.
Bah oui.
Donc je sais pas comment il a calculé sa moyenne, mais il devrait même finir premier. C'est le plus mauvais rendement, quoi.
Bah oui, c'est l'infini. Bah oui, c'est quoi. Zéro.
Non, c'est l'infini, quoi. Ouais, puisqu'il a 0 points. Donc voilà, c'était une petite stat, un petit bilan de saison un peu intéressant. Puisque je n'avais pas d'autres actus, mis à part Briatore qui pourrait revenir en F1.
Ah, vas-y, parle-nous-en.
Ah.
Je sens que ça te fait plaisir, vas-y, parle-nous-en.
Ah. Il semblerait que Briatore et Jean Todt se soient rencontrés.
Dans un restaurant à Paris, il paraît.
Bon, bah voilà. Non, mais c'est vrai, oui, bien sûr.
Mais de toute façon, c'est pas une rumeur, mais c'est un bruit qui court depuis pas mal de temps que si, avec le changement de présidence de la FIA, peut-être que on pourrait revoir à la baisse la peine de Briatore, voire même l'annuler.
Tout à fait.
Il n'est pas souhaitable, rappelons-le.
Vous avez vu aussi qu'il y avait visite de Ron Dennis?
Oui.
Oui.
Le truc qu'on voyait plus depuis 6 mois, parce qu'il était persona non grata.
C'est quand même un magnifique bras d'honneur.
Voilà. Il est allé faire un tour du côté de McLaren Mercedes.
Moi, je dis bravo Ron.
Bah, c'est sympa, moi je crois.
Ouais.
Je l'aime pas, Ron Dennis, mais là pour le coup.
Preuve que déjà, pour le coup, les choses évoluent.
Ouais.
Avec le nouveau président de la FIA.
Oh la vache.
On en a même pas parlé dans l'actu.
Alors, ça me faisait déjà chier quand il était président de Ferrari, mais ça me fait encore plus chier qu'il est président de la FIA.
Pourquoi?
Je l'aime pas.
Tu aimes pas Jean Todt?
Ah non,
comment peux-tu ne pas aimer cette personne qui a tant apporté à Ferrari, quoi?
Autant j'aime ce qu'il a fourni comme résultat et j'aime sa méthode, j'aime sa gestion. Autant le bonhomme ne me séduit pas outre mesure. Voilà. Le ce qu'il a apporté à Ferrari, mais j'aime pas le bonhomme. Voilà, tout comme j'aime pas Fernando Alonso, mais j'aime bien le pilote.
Moi, je veux dire que je suis toujours un peu déçu par sa communication. Je le trouve pas doué, quoi, quand il s'exprime. Mais bon, c'est personnel.
Ah, c'est Jean Todt. Ah, ce qui est magnifique, c'est quand il parle italien. Ah, quand il parle italien, il parle italien avec l'accent français, quoi.
Vous avez vu, hein? Lui, il porte la petite chemise FIA, hein.
Bah. mais c'est normal, il a besoin de... C'est comme Felipe Massa au Brésil. Il a fait pipi dans tous les coins. Là, il faut qu'il fasse pipi dans tous les coins. Il faut qu'il rappelle que c'est lui le patron, quoi. Et il a fait tout le tour de toutes les écuries. Hein. Pour une fois qu'on voit Jean-Claude dans un paddock qui est pas celui de Ferrari.
Ouais. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec toi. Avant, il faisait le tour en disant « Laissez passer Choumi, laissez passer Choumi. » Il allait aussi dans tous les paddocks.
C'est vrai.
On a trop souvent tendance à l'oublier.
C'est vrai. Donc, on passe à la question actuelle.
Oui.
Qui passe inaperçu?
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçu. Youhou! L'actu! Où es-tu?
Alors, messieurs.
C'est nous. Oui.
The question c'est actu. Nous. Oui. Et alors, comme c'est la fin de saison, je me suis dit, on va faire bien, on va en faire deux.
Donc il y en a une grosse, puis il y en a une secondaire que j'ai vu une actu qui m'a fait rire et j'avais envie de la partager avec vous. Voilà. On va commencer par la grosse actu.
Ouais.
Alors messieurs, écoutez bien la question. Qu'est-ce qui... Alors je vous rappelle, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Yahoo, il n'y a pas de Bing, il n'y a pas de...
Ouais,
il n'y a rien.
C'est pas le genre.
Non, mais je préfère. Donc, qu'est-ce qui reliera bientôt Burbank en Californie à Abu Dhabi?
Un avion?
Non.
Disney?
Un tunnel?
Pas Disney. D'accord. Un tunnel non plus, ça fera quand même...
C'est un rapport avec le cinéma?
C'est un rapport avec le cinéma.
Ouais.
Un parc d'attractions.
Un parc d'attractions, oui. Allez, vous êtes fort.
Attends.
Heureusement que j'en ai prévu deux. Maintenant, je veux savoir quel parc d'attractions, quand même.
Eh bien, le parc d'attractions... Ferrari.
Ah, machin. Bravo, Gigi. Ah, vous m'avez tranché en deux ma question actuelle.
Attends, on est balèze.
Donc oui, effectivement, c'est le parc d'attractions Warner
qui mais sera... C'est pas le rapport avec la F1.
Mais parce
qu'il y en a pas. Et toi, t'es chiant. Il y a peut-être un rapport avec la F1.
Mais non, mais
il y a toujours un rapport avec la F1.
Dans mes questions, il y a toujours un rapport avec la F1 et il y en a bien un là, puisque le complexe de l'île de Yas comprend donc le circuit Yas Marina, plus le Ferrari World, dont on a pu voir le magnifique dôme rouge avec le magnifique logo Ferrari pendant le Grand Prix, plus le Warner Bros. World Park d'Abu Dhabi. Pour la Warner Bros. Company, il s'agit bien évidemment de s'ouvrir le marché moyen-oriental, tandis que pour le Moyen-Orient, il s'agit notamment avec tout le complexe de l'île de Yas, de renforcer sa position de principale destination touristique pour les occidentaux au Moyen-Orient. Alors bon, dans le rang des animations, je vous passe l'aventure 3D de Shrek, le show musical des Looney Tunes, hein, et bien sûr les événementiels comme les nuits de l'horreur d'Halloween avec un accès à toutes les attractions qui vous foutent bien la pétoche, genre le Batwing.
Ouais.
Alors le lien avec Burbank dans ma question, c'est tout un nom parce que Burbank c'est l'un des deux sièges de la Warner et là on voit que Shinji s'y connaît un peu en médias. Burbank c'est la capitale américaine du multimédia, du divertissement.
Ouais, du divertissement.
Hein, puisque notez quand même que
il y a plein de studios là-bas.
Les activités de ABC, NBC qui sont des chaînes de télé. S'y retrouvent aussi les studios de Insomniac Games, de Nickelodeon, ainsi que les studios Walt Disney, Touchstone et de Cartoon Network. Donc c'est quand même c'est la Silicon Valley du divertissement. Voilà. Vous êtes prêts pour la deuxième question actu?
Oui.
Oui.
Qui risque de tenir elle aussi 10 secondes.
Ah, t'es pas en forme en ce moment.
Donc, deuxième question, toute simple, elle aussi liée à la Formule 1. Pour quelle raison les commentateurs de la chaîne BBC ont-ils dû s'excuser en direct dimanche?
Oh, ils ont dit une connerie, eux.
Non.
Ils ont fait une connerie.
Non.
Ils ont pas dit une connerie, ils ont oublié, du moins en fait, ils ont fait comme TF1 en 92, ils se sont pas rendu compte que Button était champion du monde.
Non. J'irais même, personnellement, de mon point de vue,
C'est pas une connerie,
mais je comprends pas pourquoi.
Ah. C'est quelque chose qu'ils ont fait ou quelque chose qu'ils ont dit?
Ils ont ni fait ni dit.
Ils ont oublié quelque chose.
Ils étaient malades, ils ont pas pu assister à une séance et tout ça, non?
Je dirais que c'est par rapport à une parole, mais c'est pas eux qui l'ont dit.
Par rapport à ce qu'a dit Button en chantant?
C'est pas ce qu'a dit Button en chantant, c'était à Abu Dhabi, après le Grand Prix. Pour vous dire, c'est après le podium d'Abu Dhabi, on avait... Je peux vous le dire, Button et Weber qui parlaient, et il s'est passé quelque chose, et ils se sont excusés pour ce qui s'est passé.
Ils ont posé une question.
Non.
Oh là.
Ah, c'est tordu.
Pas. Ils ont montré des images des débuts de Button?
Non.
Non, mais c'est, en fait, ce que s'est dit Button et Weber, c'est ça qui...
Ils se sont dit quelque chose, effectivement, enfin, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et que, c'est pas le genre de choses qu'on diffuse à la télé. Pas, dans certains pays.
Ah, il a dit un gros mot?
Et il a dit un gros mot. Figurez-vous que les commentateurs en parlant, ils ont dit, tiens, on a Button dans le paddock. Donc, il y a une caméra qui a couru vers Button, qui était en train de parler. Avec Weber. Et genre, Button, il a dit... Alors, ce qui est drôle, c'est sur les sites anglais, ils disent « The F-word ».
Ah oui, d'accord. F, hein, le bon F.
Bon, il a dit « putain », et comme par hasard, c'est le seul mot qui a retenu la caméra, et la caméra arrive, il dit « ah, putain ». Et donc voilà, les médias anglais, la BBC, ils sont dû s'excuser en direct d'avoir diffusé Button qui disait putain. Voilà.
Ah putain, heureusement qu'il s'excuse pas à chaque fois que tu dis c'est sorti le doigt du cul.
Mais voilà, ouais. C'est...
Chers auditeurs, excusez-nous pour les grossièretés dont fait preuve Yannick au cours du SAV.
Et excusez-nous aussi pour les autres mots.
Ouais, voilà, hein, tous ceux,
tous ceux voilà. Que vous comprenez pas.
Non mais... On aurait été aux États-Unis, ça m'aurait pas choqué, ça m'aurait pas étonné, parce que les Américains sont comme ça. Mais là, quand même, on est en Angleterre. Je sais pas, je pensais que c'était...
Eh ben, il faut pas choquer cette vieille grand-mère du Kent qui habite dans sa petite maison dans la campagne.
Hein. Déjà qu'on lui a piqué sa couronne.
En référence.
Au dessin.
Au dessin d'Enzo sur enzof1.com. Retenez bien cette adresse.
On sait jamais, ça peut servir.
Waouh, spoiler. Hein, spoiler saison 2010.
Moi je dis juste, il y a des choses qui sont en cours, qui sont en cours.
Donc, messieurs, la qualification.
Oui.
Alors comme je suis un cruel dictateur,
oui.
J'ai remarqué lors des deux, ça je vous ai observé, j'ai pris mes petites notes dans mon petit cahier noir.
Hein, quel enfoiré.
Et j'ai noté, messieurs, que vous faites les moyennes, bah vous faites les moyennes avec les pénalités, avec les rétrogradations, etc. Mais non. Bah,
c'est... Attends, tu nous as pas donné le manuel.
Mais c'est à vous, oui. Viser, c'est à vous d'avoir une certaine logique. On parle de qualification, de performance pure. Donc, faut se concentrer sur les performances pures, messieurs.
Ah oh bah, c'est facile de le faire quand il y a qu'une seule pénalité.
Bah oui.
C'est vrai.
Feignasse.
C'est vrai. D'ailleurs,
je rappelle-toi le Japon. Moi, je me suis payé le Japon. Tu te rappelles les putains de pénalités.
Mais sur le site du SAV, sur le site du SAV, www.savf1.fr.nf, vous avez le classement sans pénalité. Ah ah!
Ouais, c'est ça.
Alors, sont exclus en Q1 trois équipes.
Ah oui.
Et pas n'importe lesquelles, messieurs.
Ferrari.
Commençons par Force India. Force India, qui avec la 18e place de Sutil et la 17e de Liu Zi, a une position moyenne de 17,5. No comment.
Beaucoup. Ouais. No comment.
Bah, la seule partie où ils étaient à l'aise, c'est dans la ligne droite.
Voilà.
Ils ont pas d'appui, donc ça les aide.
À noter pendant la qualif qu'on a beaucoup d'équipes qui ont fait des tirs groupés.
Rotation en 9e position avec la même moyenne de 17,5, toujours exclue en Q1, l'écurie Renault F1. Avec
bah,
la 6e place d'Alonso et la 19e de Grosjean.
Ouais.
On les a pas sentis du tout du week-end capables de faire.
Non.
C'est clair.
Eux, apparemment, ils ont été éblouis par le coucher de soleil.
Oui. Oui. Par le ciel et par la piste aussi, par la couleur des portes, je sais pas, enfin par plein de trucs en tout cas. Hein,
c'est le nouveau sponsor, ils sont plus habitués à avoir des sponsors et ça a fait quelques crames sur l'avant de la voiture qui a totalement modifié l'équilibre.
Faut croire que c'est ça.
Donc ça devait être une peinture au plomb, la peinture du sponsor TW Steel. Ah, hey,
c'est le Steel, tu vois, c'est la Steel.
Ah ouais.
Eh oui.
Et donc... histoire de dans les écuries qui sont en pleine décrépitude, parce que Renault là c'est entre guillemets cette fin de saison c'est un score indigne de Renault, parce que on sent bien que Renault a arrêté le développement, surtout depuis qu'Alonso est parti. Je pense que l'écurie a arrêté de développer et se tourne vers 2010.
Oui.
Et elle est juste derrière une écurie qui a fait exactement le même choix stratégique. Une écurie dont je ne dirai pas le nom, si ce n'est qu'elle a une livrée intégralement rouge.
Et que ça commence par un F.
Voilà, et que ça finit par un Harry. et qu'on vous laisse deviner le milieu. Qui, avec la 11e place de Kimi Raikkonen et la 20e place de Giancarlo Fisichella, font une place moyenne de 15,5. Qui les
exclut oh
donc de Q2. Hein, ils sont direct exclus en Q1, eux.
C'est...
La place de Kimi est quand même un petit miracle, parce que Ferrari n'a pas monté grand-chose du week-end.
Ouais. C'est pareil, hein. Eux aussi, la couleur des portes, ça les a éblouis. Hein.
Ni en course, ni en essai, ils étaient largués. Et franchement, la 11e place de Kimi au départ est une bonne place.
Ah. C'est une pole.
Pour lui, ouais.
Quasiment, ouais.
Et on sent quand même, pour un peu aller vers la course, on sent quand même que Kimi, il a vite baissé les bras, il a mis le limiteur de vitesse en course. Oui. Ou alors il était à fond, mais je sais pas. On a retrouvé un peu le Kimi habituel, quoi, il se fait chier. D'ailleurs, lui l'a dit, il s'amusait pas avec la voiture à Abu Dhabi.
Je pense qu'il s'amusera plus l'an prochain devant sa télé.
Ouais. Donc, on passe au Q2.
Q2.
Avec deux équipes qualifiées éliminées en Q2. L'écurie Toro Rosso, qui, malgré la belle dixième place de Sébastien Buemi, enregistre une moyenne de 12,5 à cause de la belle quinzième place de Rémy Alguersuari. Parce que c'est quand même une belle quinzième place pour
Alguersuari. Bah ouais.
Donc voilà.
Bah, Buemi, c'est très bien. Enfin, c'est bien. Puis bon, bah ouais, voilà, Alguersuari, bah oui. Non, c'est une bonne place pour Alguersuari par rapport à d'habitude. Ouais.
Et puis les deux profitent quand même du pas en avant qu'a effectué la voiture.
Ah ouais. Bah maintenant, ouais, qu'ils ont les bonnes pièces.
Et donc la deuxième écurie exclue en Q2 avec une moyenne de 11,5, c'est Williams, hein, ouais, qui fait rentrer Rosberg en Q3, hein, avec
une bonne
place. Mais Nakajima qui n'est que 14e, ce qui pour Nakajima reste quand même une bonne place.
Oui. Oh non, il a fait mieux quand même cette saison.
Il a fait mieux et il a fait pire.
C'est Nakajima.
Non, c'était Nakajima.
Oui,
je suis pas sûr qu'on le.
Façon,
on le revoit.
C'est bon, on est tombé en pamoison par un autre japonais, donc c'est bon.
Non, mais voilà, de toute façon, il y a une règle en Formule 1, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul pilote japonais en ville.
Oui.
Et que vu ce qu'a dit le dimanche soir John Howett de Toyota en disant bon bah on va essayer de lui proposer un contrat pour 2010.
Sous réserve qu'on soit encore là.
Autrement dit, grosso modo, il va piloter pour nous. Donc voilà. Au revoir, Neka.
C'est marrant quand même parce qu'on a, du moins, je fais une petite aparté, mais on a eu aucune écurie qui s'est dit intéressée par un moteur Toyota puisque ouais. Williams n'en aura plus l'an prochain. Et en fait, personne n'en veut.
Peut-être qu'à l'avenir, ouais. USF1 pourrait l'être. Parce que bon, même si Cosworth c'est anciennement Ford, ça parle pas vraiment aux Américains. Alors Toyota parle peut-être plus aux Américains et qu'ils
parlent. Oui, puis que je pense que quand ils verront tous les moteurs Cosworth qui vont cramer en 2010, peut-être qu'ils déchanteront.
Il y a un grand débat sur ces Cosworth. Apparemment, Adrian Newey a demandé à avoir les spécifications techniques du moteur et quand il les a vus, il a fait on préfère garder le Renault.
Le Renault.
Ah ouais, à ce point-là.
Ouais, ouais, mais apparemment, lui, il a demandé les spécifications techniques et il a dit, bah non, autant garder le Renault.
Ça va être une grosse daube.
Pas forcément, mais apparemment, pour lui, il y aurait trop de modifications à faire sur la RB6. Et donc, autant continuer avec un moteur qui, aujourd'hui, est satisfait. Le Renault est peu gourmand, il fonctionne bien. Il a cassé deux fois cette année ce qui les a mis dans la merde, mais en dehors de ça.
Ah, puis le Renault, vu le règlement de l'an prochain.
Bah, il pourrait progresser, hein.
Ouais, il consomme peu.
Voilà.
Et consommer peu l'an prochain, ça va être utile.
C'est peut-être un mauvais choix de Williams. Qui a confirmé qu'ils seraient eux avec Cosworth. Et avec Rubens Barrichello et
Hülkenberg.
Rubens Barrichello. Oh mon dieu. Alors. Justement, comme on parle de Toyota, rentrons si vous le voulez bien dans la Q3. Et vous avez remarqué, je me suis pas gouré cette semaine.
C'est vrai. C'est bien.
D'ailleurs, les deux dernières semaines.
Après 17 essais.
Donc, Toyota, 5e, hein, avec la 6e place de Trulli et la 12e place de Kobayashi. Ils font une position moyenne sur la grille de 9. On est à confirmation, ouais, hein, Trulli rapide en qualif, Kobayashi, pour un débutant, 12e, c'est pas trop mal.
Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est bien. En 4e position, avec une position moyenne de 7,5 sur la grille, une écurie qui a fait rentrer ses deux pilotes en Q3, un à la 7e place, l'autre à la 8e. À savoir BMW avec Robert Kubica devant Nick Heidfeld. Ils finissent au moins avec quelque chose de potable.
Ah oui.
Ouais, voilà.
Ils sauvent un petit peu leur saison. Même si, entre guillemets, ils n'avaient plus à la sauver, parce qu'elle était déjà...
Bah non.
déjà morte.
Voilà. Kubica qui est devant Heidfeld.
Bon.
On est tenté de dire cette saison pour une fois. Parce qu'on a quand même eu souvent cette saison, j'ai pas les statistiques Grand Prix par Grand Prix, mais on a quand même eu souvent cette saison Heidfeld devant Robert Kubica.
Oui, c'est la majorité du temps, je crois.
Ouais. Alors, ensuite, en 3e position, nous avons l'écurie qui a fait la pole position, mais qui n'a qu'un pilote, donc à partir de là.
C'est Ferrari.
Non.
Ah non, pardon.
L'autre qui n'a qu'un
McLaren. Alors,
pardon, Ferrari, ils en ont qu'un demi. Il y a qu'une course sur deux où il est bon.
Donc, McLaren, alors, je suis méchant parce que j'ai dit qu'un pilote. L'écurie a dominé les essais.
Oui. Hein.
Et ne doit cette troisième place, donc d'abord la pole de Lewis Hamilton, mais à la treizième place de Kiko Vallainen, place sans pénalité, tout simplement au fait que le pauvre Kiko Vallainen n'ait pas pu défendre ses chances. Et c'est un peu le syndrome de Kiko Vallainen, quoi. C'est qu'on sent, quand il a la possibilité, entre guillemets, de faire une bonne qualification ou un bon Grand Prix, malheureusement, il tombe sur un pépin technique. On remarquera qu'il
n'y a pas de bol, quoi.
Il y a quasiment que lui qui a des pépins techniques depuis deux ans.
Oui.
Là, on remarque d'ailleurs, quitte à empiéter un peu sur la course, c'est la première casse mécanique de Hamilton.
De Hamilton. Ouais. Ouais, donc c'est de sa carrière, quoi.
De sa carrière. C'est quand même incroyable, quoi.
Ouais.
Donc oui, les pépins techniques, c'est pour l'autre, quoi.
Ouais.
Il a eu plus de pépins techniques qu'Alonso, moins de pépins techniques qu'Alonso, c'est quand même dingue.
Tu veux dire qu'un pilote aurait été favorisé dans l'équipe?
Bah ouais, mais lequel? Alors justement, comme on parle de faveur, on a Kiko Vallainen qui apparemment se dit plus on me met Kimi en face, ou alors que c'est Glock ou on sait pas qui va venir signer. Autant que je me pende, direct.
Donc, oui, il commence à balancer.
Et il a lâché cette bombe.
Un truc de dingue, un truc de fou, un truc qu'on se doutait même pas.
Hamilton est favorisé?
Ouais,
il non. Paraît...
Non, moi j'y crois pas. Hein. ça me paraît impossible.
Donc voilà, en tout cas, alors, on le disait, de retour un petit peu dans les grâces de, pas de McLaren, mais que, il faisait beaucoup de négociations en ce moment et que le fait du refroidissement de la piste Ferrari qui semble, de la piste Raikkonen qui semble encore plus se refroidir de jour en jour.
Normal avec Kaisman, non?
Il reprenait du poids de la bête, quoi, qu'il ait peut-être des chances de rester. Surtout qu'il a le soutien de Lewis Hamilton. Eh ben non, l'autre, le pauvre Eiki, hein, va finir chez Toyota ou chez Manor.
Ouais.
Manor, c'est quand même dur, hein. Manor qui l'a pas sorti.
Avec Senna?
Non, Senna, il sera chez Campos.
À Campos, pardon.
Voilà. Manor, tu sais, c'est l'écurie invisible. Oui. Elle n'existe que dans l'esprit de Richard Branson.
À peu près, voilà.
Et même lui hésite, parce que il négocie, mais par téléphone, donc il se dit, il y a un truc.
Faudrait peut-être que j'aille visiter l'usine.
Alors ils m'ont donné l'adresse, mais c'est un champ, je comprends pas.
Je comprends pas, je fais Google Maps, je vois rien. Je vois des vaches.
Donc, on arrive dans les deux premières positions, avec Brown Grand Prix qui est deuxième, une position moyenne de 4,5 sur la grille. Hein. La cinquième place de Button, conjuguée avec la quatrième place de Barrichello.
Ouais.
Voilà. Rien à dire, non?
Bah, bon niveau pour la Brown.
Oui.
En cette saison.
Oui, c'est...
Ça faisait longtemps.
Voilà.
Et donc, en première écurie, hein, nous avons Red Bull, qui grâce à la deuxième place et la troisième place de Vettel et Weber, enregistre une position moyenne de 2,5. Je crois pas que c'est la meilleure position cette année. Je crois que ça avait déjà été Red Bull qui avait fait, je crois, 1,5 ou 2 lors du Grand Prix de...
Le minimum, c'est 1,5. Il y a McLaren au Grand Prix d'Europe qui a fait 1,5.
Bah, c'est un doublé.
Cette saison, voilà. Je regarde comme ça s'il y en a eu beaucoup des 1,5.
Donc, Enzo, as-tu à ta disposition l'équilibre entre les pilotes dans les qualifications?
Bah, bien sûr.
Ah, bah, peux-tu nous les faire?
C'est ce genre d'info dont je suis friand et que je recherche. On va commencer par les grosses claques.
Mm-hmm. Ouais.
Donc les grosses claques, il y en a deux. Allez, il y en a quatre, on va dire. Une assez surprenante quand même, étant donné les résultats quand même, c'est chez Red Bull. Parce qu'on peut se dire, Vettel a gagné 4 fois, Weber a quand même gagné 2 fois, donc ça devrait être quand même relativement équilibré. Et là, on s'aperçoit que Vettel a gagné, s'est qualifié 15 fois devant son coéquipier, quoi.
Ouh, ah oui.
Quand même, sur 17, assez... ça fait mal. Hein.
Sur 17, ah oui. Ça fait mal. Hein. Le même score, mais là, beaucoup moins surprenant, c'est pour l'Allemand volant finlandais Rosberg. Face à Nakajima chez Williams.
Non, c'est quand même une surprise. On aurait plutôt parlé sur 17-0.
Oui, c'est vrai que t'aurais pu être 17-0. Non, je pense que c'est quand il a eu des problèmes.
Voilà, il doit y avoir deux problèmes mécaniques pour Rosberg.
C'est ça. Dans les autres claques, là encore, demain, Non, c'est pas forcément surprenant parce qu'on connaît sa rapidité en qualif, mais dans les en résultat en course, c'est assez équilibré. Mais c'est Trulli qui fait un 12-4 face à Glock. À mon avis, c'est même faux cette information que j'ai, étant donné que Glock a pas participé aux deux derniers Grands Prix. Donc, à mon avis, il y a une erreur dans ces stats.
Ça serait plutôt un 12-3.
C'est soit un 12-3, soit un 11-3.
11-4, ouais.
Bon, peu importe. Et également chez McLaren,
Hamilton. Tu pourrais quand même vérifier tes sources. Hein.
Oui, c'est toi qui viens de me l'envoyer. Hamilton, qui met un 12-5 face à Aiki.
C'est normal.
C'est normal.
Oui, voilà.
Dans les stats que j'ai, sinon on a des écuries donc pour lesquelles c'est assez équilibré. Bon, Kubica, Hedfeld 10-7 en l'honneur du Polonais, mais bon, c'est relativement équilibré. Button face à Barrichello, c'est Barrichello qui s'impose d'une courte tête, donc 9-8.
C'est sa demi-saison, hein.
Oui, oui, complètement. Et puis après, on a donc les écuries où. Bon, là les chiffres que j'ai, c'est sur les pilotes qu'on a en fin d'année. Mais Raikkonen qui a fait un 5-0 face à Fisichella, un Alonso 7-0 face à Grosjean, un Buemi 8-0 face à Albert Suari, ou enfin un Sutil 4-1 face à Luizzi, quoi.
Ouais.
Voilà.
À noter, là, je cherchais donc les entre guillemets 1,5, c'est-à-dire les premières lignes trustées par une équipe. Eh ben, il n'y a eu que 3 fois cette année.
Ben, il y a eu Brown en Australie.
Brown en Australie.
Il y a Red Bull en Chine, non?
En Chine, c'est Vettel et Alonso.
Ça serait pas... Peut-être Brown à Monaco?
Non, mais t'étais pas là en Chine. Juste après la Chine, il y a Bahreïn.
Ah,
Toyota.
Bahreïn. Ah bah oui, Toyota.
Toyota qui avait fait la première ligne.
Red Bull, ils ont jamais fait 1-2.
Toyota, ils ont fait 1-2.
Ah, ouais, Bahreïn.
Ouais. Et ils ont perdu.
Et on se souvient, tout le monde se disait, ça va être la première fois enfin, bah non.
Oui, ouais, mais bah, non.
Donc messieurs, nous passons à la course.
Yes. Si.
Alors la course avec notre petit classement top 8 et avec des surprises.
Ah, j'imagine.
Et des surprises.
Combien de pilotes?
Alors déjà nous avons 10 pilotes.
Ah, je m'attendais à plus.
Et nous avons 7 pilotes sur lesquels nous sommes tous prononcés.
D'accord.
Non, mais pas. C'est une bêtise. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pilotes sur lesquels nous nous sommes tous prononcés. Ouais. Et il y en a 2 qu'il y en a au moins un de nous 3 qui avons oublié.
Ouais.
Donc, même pas, j'ai une connerie. Je dis encore une connerie. Il y a 5 pilotes seulement.
Seulement?
Il y a seulement 5 pilotes.
Il y a 5 pilotes dans notre top 8?
Ouais,
il y a une erreur.
Dans notre top 8, il y a 5 pilotes sur lesquels nous nous sommes tous les 3 entendus. À des positions diverses, mais il y a 5 pilotes sur lesquels nous nous sommes tous les 3 entendus. Donc il y a 3 pilotes que au moins l'un de nous 3 a oublié.
Oui.
Mais qui est dans le top 8. Auquel s'additionnent 2 pilotes qui sont dans aucun top. Alors, je vous propose tout de suite de commencer par... Alors,
des pilotes qui sont dans aucun top, on n'en parle pas, là.
Bah oui.
On va quand même mentionner, puisqu'il y en a un qui a donné un point.
Ah bah, c'est qu'ils sont dans un top, au moins, alors.
Bah non, il a donné qu'un point.
Mais tu dis, ils sont dans aucun top.
Mais oui, mais ben, il est dans un top.
Non mais.
Oh là 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 là.
C'est lui qui s'exprime mal.
Mais non, vous prenez mal à la tête là.
Non mais t'es d'accord avec moi, il s'exprime mal.
Dans nos tops, il y a un pilote qui est pas dans un top.
Ça va rien dire.
Bon bref. Et qui Kovalainen?
Dans nos tops, il y a un pilote qui est pas dans nos tops. Ça veut dire quoi?
Arrête s'il te plaît.
Non mais sans rire.
Ah bon? Dans nos.
Je veux comprendre.
Dans nos trois tops à nous. Il y a un pilote qui n'est pas dans le top 8, le top du SAV.
Oh.
Ah.
Ah, mais ce n'est pas clair du tout.
Donc.
En toute objectivité.
Ne fera pas partie de notre classement Heikki Kovalainen.
Oh, surprenant.
Que, personnellement, je lui avais donné un point.
Ah.
Parce que.
Comme tu es bon.
Parce qu'il a quand même fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire. Quand une fois Hamilton abandonné, bah, il devait juste se mettre pour assurer la troisième place constructeur à McLaren. Il s'est mis devant Raikkonen et donc c'était ce qu'il devait faire. Donc voilà pour.
Attends,
ouais, honnêtement, il part de loin et tout, puis il finit en milieu de peloton, c'est pas mal.
Voilà.
Tu penses qu'il a fait ça en y pensant?
Non, mais j'ai pas dit qu'il y pensait. J'ai dit qu'il avait fait ce qu'il fallait faire.
Voilà. Il n'y a pas pensé, mais il l'a fait quand même.
Il était deux secondes derrière Raikkonen. Il se met devant Raikkonen et il le laisse pas revenir ou quoi que ce soit. Donc il fait entre guillemets ce qu'on attend de lui de la part de l'équipe. En étant parti si loin, il y avait rien d'autre à espérer. Donc ça mérite pas 10 000 points. J'ai donné qu'un point. Et en plus, il n'est pas dans le top final. Non, viens pas bûcher des bulles. Alors ensuite, vont se partager le point.
Bah non.
Oui.
Zéro point.
Non.
T'as dit qu'il y en avait trois qui étaient exclus.
Non, il y en a deux. Non, il y en a un. Mais il y en a deux parce que.
Bah t'as dit trois.
Mais non. J'ai dit
trois tout à l'heure.
J'ai dit deux tout à l'heure.
Mais non, il a dit trois.
Mais.
Shinji, défends-moi, il a dit trois.
Mais oui, il a dit trois.
Non. Ah. J'ai dit deux.
Non, t'as dit trois.
Non, j'ai dit deux. Non, j'ai dit qu'il y en a trois. Qui était dans. Ah, là, je m'en passe tout. Dans nos top 8.
Oui.
Il y a 10 pilotes.
Oui.
Parmi ces 10 pilotes, il y en a 5 que tous les 3, on les a mis dans nos top 8.
Oui, d'accord.
Il y en a 3 qui sont dans le top 8 final,
mm-hmm.
Mais qui ont été oubliés par un de nous 3.
D'accord.
Attends, le jour où on sera 4, ce sera l'horreur. Il faut jamais agrandir l'équipe.
Attendez, parce que le meilleur arrive, donc il y en a deux qui sont en dehors des points.
Oui, mais d'accord.
Sauf que sur ma feuille, j'ai pas fait gaffe, mais...
Allô, docteur Legrand ?
Oui, ce sera à nouveau pour une consultation.
Dans ma feuille, il y a Kovalainen qui a pas de points. Mais ensuite, devant, il y a un mec que j'ai pas mis dans les points, mais qui est dans les points puisqu'il a le même point. Parce que j'ai pas noté un point. Donc en fait, dans notre top 8, il y a 9 pilotes.
En gros, il y a 2 pilotes qui sont 8e ex aequo.
Voilà.
C'est tout.
Ce qui fait que donc, on n'a pas 3 pilotes sur lesquels on s'est pas tous entendus, on en a 4. Non, on a 9 pilotes, on a 9 pilotes pour le top 8, on en a 5 qu'on a tous 10, et on en a 4.
Mais on s'en branle, t'as juste à dire, il y a 2 pilotes qui sont 8e et 8e. Voilà, une phrase, tout le monde a compris.
Mais non, mais voilà, bah, c'est voilà. Donc, arrive Execo.
J'ai rien compris.
Il y a deux pilotes qui sont 8e ex aequo.
Il réécoutera l'émission. Il fera play et puis il pourra faire retour.
Ah bah, tu vas couper ça.
Ah non, ça je le laisse.
C'est trop beau.
Donc, arrive 8e ex aequo. Trulli et Barrichello.
Ah donc il y a 9 pilotes.
Mais oui. Ça fait 8 à 9. Donc ils vont chacun marquer 0,5 points.
Bah ouais.
On s'en fout puisqu'on les met pas dans notre classement.
Bah oui. On y repensera l'an prochain.
Mais l'année prochaine, on prépare déjà 2010, c'est pour fixer les règles.
Ah voilà. Ouais, mais peut-être qu'on va peut-être plus faire cette section.
Alors, ils sont ex aequo parce que Trulli a été mis 7e par Enzo et 8e par Shinji, et moi je l'ai oublié. Et Barrichello a été mis 7e par Shinji et 8e par Barrichello.
Par Barrichello.
Mais Barrichello, il vote.
Non, s'il vous plaît, merde, les mecs. Ne notez pas chacun.
Ah, mais moi, je savais pas que les pilotes, ils avaient le droit de voter.
Ah, la vache. Donc, pourquoi Barrichello et Trulli, messieurs?
Ah, parce qu'on a chacun voté. Voilà, parce qu'ils sont à égalité.
Parce qu'il fallait bien mettre un 7e et un 8e.
Pareil.
Voilà. Alors, voilà. Tu me dis pas pareil parce que tu m'as critiqué sur Kovalainen.
Ah non, parce qu'il fallait bien mettre un 8e, un 7e. Moi, je l'ai mis dans ce ordre-là.
Voilà. Toi, tu as mis Trulli devant Barrichello.
Ouais, si tu le dis.
Voilà. Donc, ils ont chacun marqué 3 points, donc au final, ils marqueront 1 point. Mais comme ils sont deux, ils marqueront 1.5 point.
Oh là 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 là.
Mais ils marqueront pas de points parce qu'ils sont pas dans le classement, donc on s'en fout. Donc, ensuite. En septième position. Encore un pilote que quelqu'un d'entre nous a oublié.
Mm-hmm. Ah, c'est pas moi.
Nick Heidfeld.
C'est vrai.
Que.
Ah non, je l'ai pas mis.
Kenzo a mis 6e et que moi j'ai mis 7e et que Shinji a oublié.
Que moi je n'ai pas mis.
Alors, j'aurais dû mettre. C'est pas bien.
Moi je l'ai mis juste parce que il permet à BMW de partir avec des points. Voilà.
Mm-hmm. Ça fait léger comme raison.
Et qui finit devant Kubica. Ah, bah, c'est léger, mais en même temps c'est que 2 points, c'est que la 7e place. Hein.
Oui.
Oui.
Vous allez voir le premier. J'ai plein de raisons d'avoir mis le premier en premier. Mais le septième. Voilà.
Oui.
Et donc toi, Enzo?
Oui, parce qu'il faut bien un sixième.
Ça veut dire, bon, il faut bien un premier, hein, faut...
Non, non, après, non, mais ça justifie plus.
Bon, alors, sixième position dans notre classement SAV, Lewis Hamilton, qui fait un demi-consensus parmi nous, puisque tout le monde l'a cité dans son classement.
Oui. Ouais,
j'ai failli pas le mettre, j'ai pensé à le mettre après.
Ouais, c'est un consensus complet.
Ben non, parce que Enzo et moi l'avons mis cinquième, et Shinji l'a mis sixième.
Bon, attends, c'est quasiment... Pas, attends, voilà, cinq,
six... Tu chipotes, hein.
Je chipote, mais c'est pas la même place.
En gros, on lui a mis, mais on l'a pas mis plus haut, parce que bon, vu qu'il a fait que 19 tours, c'est plus des points par rapport à tout son week-end.
Alors, moi aussi...
Déjà, on l'a pas mis abandon. Moi, je l'aurais bien mis plus haut, mais j'avais déjà du monde plus haut.
Donc, justement, plus haut en cinquième position, qui ne marque pas 4 points, puisqu'il est dans le classement virtuel, Marc Weber, qui est cité par tous les pilotes, par tous les animateurs.
Bien sûr, hein.
Ah, mais moi, juste après un fou rire, je perds le fil.
T'as mangé quoi ce soir?
Rien. Donc, Weber Kenzo a mis 3e, que Shinji a mis 4e, et que moi, j'ai mis humblement 6e.
Oh là là, c'est une honte.
Il faut quand même. Ouais, mais j'ai mis d'autres pilotes devant. Non, mais faut pas se foutre de la gueule du monde. Il a pas fait grand chose.
Ah, rien que sa défense en fin de course.
Il a fait son Weber.
Il y a que ça, quoi. Bah là, en plus, c'est Weber, quoi. Weber, de toute façon, même en ligne droite, il se défend quand il y a personne derrière, donc, et voilà, donc, oui, il se défend, c'est bien, mais bon, en même temps, c'est pas non plus, ouais.
Moi, je dis qu'à la fin, c'était assez héroïque. Ce qu'il a fait, c'était bien.
Face à Button...
C'était sur deux tours, hein.
Voilà.
Et plus que ça, plus que ça.
Puis Button n'a pas attaqué des masses non plus.
Oh, tu rigoles, il attaquait, quoi.
Il aurait pu attaquer plus.
Ah, moi, ah, voilà, ça, c'est le gars qui a pas le permis qui va nous dire
il,
ça.
Il a attaqué à la Button.
Non, il a attaqué.
Il a essayé d'attaquer, ça a pas marché, mais...
Oui, mais Button, il avait plus d'intérêt. Il était d'office premier. Weber, c'était pareil avec Button, c'était le seul qui était sûr de sa place.
Mais c'est ça qui était classe, justement.
Badoer, Piquet, etc. Donc les mecs avaient rien à perdre. Button, il aurait pu se dire, allez, c'est pas grave, même si je le tape.
Quoi, Piquet, il courait?
Mais non, mais à part Piquet, Badoer et compagnie, ils étaient sûrs de leur place. Ils avaient 0 points et puis ils participent au championnat, donc ils étaient sûrs de leur place. Mais dans le championnat, les deux seuls qui étaient sûrs de leur position, c'était Weber et Button. Qui était d'office premier et quatrième. Avant ce moment. Donc, Button aurait pu faire calcul, dire, bon, de toute façon, lui, ça lui coûtera rien, moi, ça me coûtera rien, à part un petit peu de tôle, les championnats sont joués, on ne perd rien, allez hop, je vais les chercher à fond, il avait des
bleus. Non, mais faut pas arrêter de voir, ouais, je sais pas, non. Voilà, ils sont pas toujours à calculer, quoi, je pense
qu'ils attaquaient. C'était la fin de course, c'est vrai qu'il y avait plus d'enjeu, voilà, ils se sont dit, bon, ben, on fait le show, quoi.
Ouais, voilà, moi j'ai trouvé que c'était sympa leur lutte à la fin. J'ai bien aimé Weber qui s'est permis de faire des donuts, hein, après tout.
Ouais,
ouais.
Voilà, rien que pour ça, il méritait.
Comme Kimi.
Non, mais c'était pas volontaire, Kimi, peut-être.
Kimi en Belgique il y a 2 ans.
Oui, ah, c'est oui, vrai, oui.
Il avait fait un donut, mais je crois d'ailleurs que c'était pour une amende.
Bah oui.
Donc ensuite, 4e dans notre classement. Et là, j'avoue, c'est un peu grâce à moi, parce que j'ai fait une tentative de putsch. C'est Sébastien Buemi.
Ah, tu nous as tellement fait chier la dernière fois. Alors,
Sébastien
Buemi. Tu l'as mis premier, toi.
Sébastien Buemi qui a été mis 5e par Shinji, qui a été évité par Enzo, et heureusement que je l'ai mis premier.
Mais tu l'as mis premier, mais arrête tout.
Il fait le 2e meilleur temps en course.
Mais ça veut rien dire.
Il fait le 2e meilleur temps en course. Il fait globalement des bons essais. Il fait une bonne qualif. Il fait une bonne course. Il se laisse pas faire face à Robert Kubica qui essaye de doubler à la sauvage. Et en plus, vous lui avez volé des points il y a 2 semaines. Et je voulais me venger. Alors je l'ai mis premier juste pour être sûr comme ça qu'il soit dans le classement.
Vous voyez, chers auditeurs, comment il triche.
Non,
il n'y a pas d'autre mot, il triche.
J'ai pas triché, je me suis dit voilà, je vais le mettre premier, comme ça je serai sûr qu'il sera dans le classement.
Ouais, non, ça c'est petit.
Non, c'est pas petit.
Ah oui.
Ici c'est malhonnête. C'est malhonnête.
Quand vous mettez Vettel ou Button premier, c'est parce que vous savez qu'il va être dans le classement.
Mais pas du tout. C'est parce qu'on estime qu'il a fait une belle course.
Ouais, voilà. Moi, je me méfie de vous, donc moi, j'ai...
Mais tu peux pas dire
est-ce que... Attends, est-ce que tu m'as vu mettre Raikkonen premier à chaque course, non? Non?
Alors, question, non. est-ce que d'après toi, non, attends, en toute honnêteté, est-ce que Buemi a fait une meilleure course que Kobayashi?
Voilà, par exemple.
Oui.
Oh non.
Oui! Oui!
Non.
Non, mais Kobayashi, il y a le côté de la...
Non, tu peux pas dire ça.
C'est ton opinion à toi. Moi, mon opinion, c'est que Kobayashi, il y a toujours l'attrait de la nouveauté. Je l'ai bien placé, Kobayashi, je l'ai pas oublié, je l'ai pas mis fin fond derrière. Il est sur mon podium. Donc, je l'ai bien placé, Kobayashi. Mais Kobayashi, il fait une bonne course. Mais c'est vrai que Buemi, cette année, il nous avait pas habitué à faire des bonnes courses. Là, il fait une bonne course. Il est rapide. Et je suis désolé, contre Robert Kubica, il s'est pas laissé faire. Et c'est Robert Kubica qui est parti à la faute et pas Buemi. Et donc, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne course. Et j'avoue, sans le fait qu'on l'ait oublié, que vous l'ayez oublié dans les points la dernière fois, eh ben Buemi, moi je l'aurais mis sans doute quatrième ou cinquième, je l'aurais pas mis.
Alors je demande que tu revoies ton.
Eh ben je demande à ce que la dernière fois vous n'oubliez pas Buemi. Ah ah.
Mais on l'oubliera pas les prochaines fois quand il le méritera.
Eh ben je vous crois pas.
Voilà.
Mais il le mérite ce week-end.
Ben, moi, je l'ai cité.
Ben voilà, Shinji l'a cité, il n'y a que Monsieur Enzo, comme t'as un petit passage à vide, là, ce week-end. Au volant de sa voiture EnzoF1.com, qui laisse même pas la priorité aux autres conducteurs.
Je ne vais même pas répondre, j'aurais tort.
Ouais. Mais oui, t'es trop tard, t'as pas compris, t'as pas écouté l'introduction, là. Hein? Le nouveau patron à la ville, là, c'est moi.
C'est bien pour ça. Voilà. Je ne réponds pas.
Ça va, il se retrouve pas non plus premier du classement, Buemi.
Alors ça me fait chier parce qu'il est pas... Parce que vous rendez compte quand même que Buemi, il fait une bonne course cette semaine. Une bonne course, moins bonne que d'autres, mais il fait quand même une bonne course cette semaine. Il fait une bonne course la semaine dernière. Il a fait des bonnes courses en début de saison. Et il fait partie de ceux qui, dans le classement du SAV, n'a aucun point.
Ah, parce que là, il finit quatrième.
Là, il finit quatrième.
Ah, bah c'est bon, vas-y, laisse-le alors.
Il y en a quand même un qui nous a plus impressionné en deux courses que d'autres en une saison. Hein.
Et toc.
Mais il a pas non plus. Il faut arrêter de dire en deux courses ou en une saison. Il arrive dans une période où entre guillemets il y a plus rien à jouer pour l'écurie. Il a pas non plus la même charge. Buemi, il est dans l'écurie. Il s'est retrouvé en plein milieu de saison, sans bourder, à devoir assumer un rôle de leader avec
Excuse-moi, mais il l'avait déjà même avec Bourdais, hein, le rôle de leader.
Oui, il l'avait, mais il pouvait entre guillemets se dire, je suis à côté d'un pilote d'expérience qui sait ce qu'il a à faire. Donc entre guillemets. Il n'y a pas de position leader, même s'il avait une préférence au sein de l'écurie. On sait que c'était le préféré de Red Bull, de Toro Rosso. Mais entre guillemets, il n'y avait pas vraiment de leader. C'était pas le leader de l'écurie. Il s'est retrouvé en position leader dans une écurie, faut être honnête, qui est très très loin, qui était l'ombre d'elle-même cette saison par rapport à l'an dernier, qui est redevue une petite écurie. Il profite à bon escient du mieux de la voiture, qui n'est pas non plus tonitruante, mais qui est un mieux. Là, faut arrêter que Kobayashi, certes, il s'en sort bien et il fait bien, mais c'est un mec qui, entre guillemets, n'a rien à perdre, qui est chez Toyota, il y est bien confortablement, dans une écurie, qu'il faut quand même le rappeler, qui au début de saison était parmi les trois meilleures écuries, qui a certes faibli, mais qui était parmi les trois meilleures écuries. Il est traité à égalité avec son coéquipier. Donc voilà, moi j'ai estimé, la dernière fois j'ai jugé que Kobayashi avait été l'homme fort de la course. Là j'estime que Buemi mérite amplement, c'est pas usurpé, j'affirme même, je vais même aller plus loin. Pour moi, Buemi mérite sa première place dans mon classement, puisqu'il a montré des choses qu'il n'avait pas forcément montré jusque là.
Ouais, c'est un coup de bol.
Oh,
c'est un concours de circonstances.
Non, c'est pas un concours de circonstances. Bon, troisième. Il arrive à le finir ce classement. Il est mal commandé, mal fini celui-là. Donc, troisième, Button, qui marque donc 6 points dans le classement version 2010, mais qui n'en marque pas point qu'un seul dans le classement 2009. Faut suivre.
Bah oui.
Hein. Button, qui a été placé quatrième par Enzo et par moi-même, et deuxième par Shinji. Donc Shinji a la parole.
Bah c'est surtout pour son final, hein. Je l'ai déjà évoqué.
Ouais.
Bah non, voilà, il a pas de WBR.
Non. Alors tu peux pas dire tout à l'heure, il a attaqué tout super et puis il a pas
obligé. Voilà quoi. Voilà, c'est bien de voir un champion du monde qui entre guillemets
met du panache.
Voilà, met du panache, met de l'œuvre à sa couronne quoi.
Ouais. Voilà, je suis d'accord.
Il était pas obligé de faire ça, bah il l'a fait quand même.
Il est pas obligé
Bah non, il aurait pu rester confinement derrière des pierres.
Non mais dans ce cas-là, aucun pilote n'est obligé de rien faire.
Mais non, mais tu sais bien qu'en règle générale, à 2-3 tours de la course, à 2-3 tours de la fin de la course, les voitures, voilà.
C'est la dernière course de la saison, il y a plus rien à jouer pour lui, c'est la dernière course de la saison. Les mecs se donnent jusqu'au dernier tour. Il y a plus rien derrière, il y a plus de limite des moteurs, plus de limite technique.
Laisse Inji, on a plus la parole, c'est fini, c'est la fin.
Et voilà.
Ton.
Mais non, mais sérieux, on peut pas dire.
Ton.
Oui, en plein milieu de saison, ils se donneraient pas aux 3 derniers tours, et ils se seraient pas donné autant que ça, mais là, c'est la fin de la saison, ils ont plus de contraintes moteurs, d'ailleurs, toutes les écuries ont changé les moteurs, si elles le pouvaient, elles ont changé le moteur vendredi soir, donc voilà, parce que c'était la dernière le dernier truc, on se donne à fond jusqu'au dernier tour, surtout quand t'as plus d'enjeux comme lui. Moi, justement, ce que j'ai regretté, c'est qu'il ait pas doublé, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il le double.
Bah ça, après, voilà, il a tenté, il a pas réussi.
Il a tenté une fois. Ah, il y a eu un beau passage où il l'a presque passé. Il aurait dû me dire, fallait la faire à la Weber. Un petit coup de roue.
Fallait faire à la Schumi, lui percuter Weber.
Non. Tu n'as pas le droit à ça, Shinji. Tu n'as pas le droit.
Fallait pas chercher.
Tu vas être disqualifié, fais gaffe.
Mais Schumi, il n'a percuté personne.
Mais non.
T'inquiète, ce sera coupé au montage.
C'est pas de sa faute s'il prend des trajectoires différentes des autres pilotes. C'est aux autres pilotes de s'adapter.
Je suis d'accord. Donc Button aurait dû prendre une trajectoire différente des autres.
Voilà.
De Weber, afin de le doubler.
Non mais en plus, moi Button, sur le classement du... Parce que je fais le classement avant la fin de la course, donc j'avais commencé à faire le classement sur le site du SAV. Et donc j'avais mis Button 2e et Weber 3e, parce que j'étais sûr. Étant donné que Weber avait des problèmes de pneus, etc., j'étais sûr que Button passerait. Et j'ai trouvé que les attaques de Button étaient... Gentleman, à l'image de Button, et à la limite, finalement, je suis ravi qu'il ait pas été plus loin, parce que ça reste dans la logique de sa saison où j'attaque, mais sans y aller trop fort.
Correct.
Voilà, correct. Donc, on passe à la deuxième position.
Oui.
Avec un demi-consensus autour de Kobayashi, qui est mis 2e par Enzo et 3e par Shinji et moi-même.
On a déjà parlé. On a
parlé de Kobayashi.
Non mais bon, il arrive dans une écurie qui était la troisième force du début de saison. Qu'est-ce que ça dit d'autre?
Il s'est chouchou de Toyota. Qui s'est d'ailleurs empressé de dire après le Grand Prix.
Donc il peut se le permettre quoi.
Ouais, et attention à l'an prochain hein, parce que non, là non, forcément. Mais...
Hein... Franchement, son attaque sur Button, chapeau quoi, chapeau bas quand même. Mm-hmm.
Oui, mais il peut, chapeau bas, mais en même temps, il peut avoir que l'audace, entre guillemets. Lui, c'est ce qu'il a, il a révélé aujourd'hui. Lui, il se voyait déjà retourner, dans le resto de son père faire des sushis. Il a rien montré cette saison en GP2, donc entre guillemets, et c'est justement ce qu'il faut faire en Formule 1. Il a montré son va-tout, attaquant s'il fallait.
Donc s'il a un baquet, c'est l'an prochain avec les choses sérieuses. Parce que là, justement, là, il avait que 2 courses, il pouvait, entre guillemets, se défoncer. Ça va être autre chose l'an prochain.
Tu sais, Yannick, tu dis, oui, il a 2 courses, il a aucune pression, mais en fait, il a fait ce qu'on aurait attendu d'un gros Jean, quoi.
Non, j'ai pas dit il a aucune pression. Non, attention, j'ai pas dit qu'il a aucune pression. Mais... Il joue son va-tout, il a rien à perdre.
Ah oui, mais alors justement, Grosjean l'a pas fait.
C'est justement, il a pris l'exemple sur Grosjean, il est pas parti dans une stratégie long terme où je vais rester 1 an et demi, il faut quand même se rappeler que Grosjean, à la base, il était engagé avec Renault dans l'optique de 2010,
oui,
de faire la saison. Donc grosso modo, Grosjean, il était là pour apprendre cette fin de saison, à l'image de ce que fait Alguersuari. Sauf que Grosjean s'est retrouvé en plein milieu du crash gate, dans une écurie qui a cessé son développement dès qu'ils ont su qu'Alonso était partant.
Ils auraient pu arrêter dès mars alors. Hein.
Celui qui en paye le prix, c'est Grosjean. Et moi, ça m'agace un petit peu en ce moment quand j'entends tout le monde taper sur Grosjean, alors qu'on oublie que Grosjean... Il a fait un bon Grand Prix à Valence, que derrière, il fait malheureusement, ça arrive à tout débutant, et il tape, il a tenté lui aussi de dépasser Button, et puis ça a pas marché, et puis bon,
lui, ça a pas marché, tiens.
Et Button a reconnu qu'il était en partie responsable. Bon. Et derrière, il y a eu le crash gate, donc c'est une victime collatérale. On peut pas dire que Grosjean est pas une victime collatérale du crash gate. C'est une victime collatérale du crash gate. Il arrive dans une équipe qui a perdu ses dirigeants. et qui est déjà tourné vers 2010. On peut pas s'attendre à ce que ce gamin fasse des exploits. Et en plus, il était venu en F1, contrairement à Kobayashi, il était venu en F1 en se disant « Mon avenir, entre guillemets, il est pas assuré, mais j'ai le temps pour voir. »
Puisqu'il a
commencé à avoir la confiance de son équipe. Et là, il se retrouve, c'est comme s'il avait été changé en plein milieu de la saison d'équipe, et on lui disait, bah, à partir de maintenant, faut que tu te battes pour ta place. Et il se retrouve à se battre pour sa place. Il s'est retrouvé dans une spirale médiatique qui a été le crash gate, qui a été, en plus, à côté d'un coéquipier qui est quand même pas non plus un manche. Il s'est retrouvé, il a, entre guillemets, pas tous les atouts en main. Kobayashi, lui, il a fait une mauvaise saison. Personne ne le voyait venir, hein, même ceux qui l'ont suivi. Moi, je l'ai repéré en GP2 Asia quand il a gagné. Je me suis dit, tiens, celui-là, peut-être qu'en Formule 1, peut-être qu'on va enfin avoir un bon vrai japonais. On le voit arriver. Entre guillemets, il a rien d'autre à faire que de se sortir les doigts du cul, quoi. Il doit faire la course. Après, moi, je voudrais quand même un petit peu ralentir le rythme sur Kobayashi. C'est très beau ce qu'il fait, c'est très impressionnant et il est en train. Moi, ça me fait plaisir quand un pilote japonais marche parce que j'aime bien le Japon. C'est un peuple que j'aime beaucoup et ça me fait plaisir de voir un pilote japonais. Attention, ne nous enflammons pas sur 2010.
C'est ce que je dis. Hein. Fais attention l'an prochain. Les choses sérieuses vont vraiment commencer l'an prochain pour lui. Hein. Ça sera plus le remplaçant qui vient, hop, deux grandes courses et tout. Les choses sérieuses vont arriver. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il nous fait vraiment un début comme...
Un débat grand.
Voilà, un début de grand.
Un début de Soumis, de
Vettel,
de
Hamilton, voilà.
Et c'est ça aussi peut-être le danger l'année prochaine, c'est qu'il va arriver dans une écurie japonaise, si elle reste, en étant, entre guillemets... On vient de lui coller sur le dos l'étiquette du meilleur japonais jamais venu en Formule 1.
Ouais, là, il a fait que deux courses. Hein.
Il a fait que deux courses. C'est vrai qu'il en a pour le moment, il en a le potentiel, il nous a montré des choses pour. L'année prochaine, est-ce que par exemple Toyota, qui a tendance à faire des erreurs un peu dans ce genre-là, ne va pas tout mettre et lui mettre la pression et que lui va se retrouver entre guillemets à devenir le leader de Toyota, parce qu'on voit personne aujourd'hui sur le marché des transferts qui va devenir le leader de Toyota.
Non.
Grand pilote en perspective japonais chez Toyota.
C'est peut-être le pilote qu'attend Toyota depuis 10 ans, justement.
Oui, voilà.
Au lieu de prendre des pilotes avec déjà de l'expérience, des choses comme ça. Là, c'est un pilote maison qui est jeune, qui peut faire beaucoup d'années avec eux et qui s'annonce déjà talentueux. C'est peut-être le messie pour Toyota.
À l'image d'un Vettel pour Red Bull. Hein.
Ouais, peut-être.
Oui, voilà. Pour ça, il faut bien tempérer les esprits. On est aussi dans un contexte qui est particulier aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il est dans une fin de saison où pour Toyota, les enjeux sont joués. Ils ont plus aucun rôle à jouer. Il peut, entre guillemets, se faire plaisir et on lui laisse un petit peu la bride facile et on ne lui met pas la pression. Et lui ne se la met pas, contrairement à Grosjean qui a un petit peu tendance à se la mettre. Ça, c'est un syndrome français, un peu Bourdet déjà se la mettait à fond. Et donc en tête, nous avons
consensus,
oui, puisque Enzo et Shinji l'ont mis premier, je l'ai moi mis deuxième, et il aurait été premier.
Il aurait été premier s'il n'avait pas mis PMI.
Donc effectivement, nous avons Sébastien Vettel qui marquera donc 5 points
et qui passe devant Button.
Et donc, il finit en tête.
Et qui finit en tête du championnat, justement, du championnat du SAV.
Eh, je vous l'avais dit qu'il allait gagner. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'il serait champion du monde. J'avais reçu le championnat. Mais pas du tout. J'avais raison.
Donc, nous enverrons un petit mail à l'agent de Sébastien Vettel. Chiche. c'est qui d'ailleurs? Je sais pas, c'est Sébastien Vettel.
C'est Sébastien Vettel.
Donc nous enverrons un petit mail à Sébastien Vettel pour lui dire qu'il est champion du monde du SAV.
Avec un petit trophée en carton qu'il faudra découper.
Ah ouais, ça serait fun ça. Oh, faut qu'on trouve la place de Vettel. Chers auditeurs, si jamais vous avez un moyen de contacter Sébastien Vettel.
Ah bah, celui qui a des entrées chez Renault.
Ah, par exemple. Vous nous le dites, nous on essaiera de trouver un moyen de lui envoyer un petit trophée ou une petite médaille du SAV.
Voilà.
On fera genre un petit magnète. Le magnète Jenson Button. Ça va lui faire plaisir pour mettre ça dans son frigo. Donc justement, le classement du SAV, nous avons vainqueur de ce championnat du SAV avec, écoutez bien, 1, 2, 3, 4 victoires et 27 points en total. Sébastien Vettel, qui s'impose devant Jenson Button, qui a marqué un point avec 23 points au total de la saison, et lui aussi 4 victoires. Ensuite, troisième position, le meilleur performeur de cette deuxième partie de saison, Lewis Hamilton.
Hamilton,
hein, qui donc est troisième avec 13 points, suit Vettel, Weber avec 12 points, quatrième, Barrichello cinquième avec 10 points, sixième, Adrian Sutil avec 9 points, Kobayashi est septième de ce classement avec,
wow,
avec 8 points.
C'est devant Kimi, ça.
À savoir que 8 points, il est ex-aequo avec Rosberg et Fisichella. Fisichella qui est donc juste devant que Raikkonen, qui n'a que 7 points. Glock est 11e avec 6 points, Massa 12e avec 5 points, Fernando Alonso avec 4 points se partage la 13e place avec Robert Kubica, Liuzzi est 15e avec 3 points, ex-aequo strict avec Trulli, quoiqu'il a marqué 3 points avant Trulli, donc il est 15e. Bourdais est 17e et donc fait un meilleur résultat que Buemi, que nous avons oublié. Et donc Piquet est 18e devant Grosjean, hein.
Piquet, on lui a mis un point.
Ouais, on lui a mis un, ouais, point au Grand Prix
Turquie.
De Turquie. Je sais plus pourquoi. Sans doute parce que ça devait être on pensait que ça serait sa dernière course et qu'on voulait qu'il parte avec un point.
Voilà.
Voilà, on aurait dû donner à Buemi, tiens. Donc, n'ont pas marqué de point cette saison, Badoer, Kovalainen.
Oh, Badoer, wow, il n'a pas marqué de point.
Ouais. Kovalainen n'a pas marqué de point. Buemi n'a pas marqué de point. Qui d'autre n'a pas marqué de point? Albert Suari n'a pas marqué de point.
Albert Suari, ouais.
Luzzi.
Et... non, Luzzi en a marqué 3.
Ah oui, oui.
Et donc, c'est à peu près tout, je crois, de mémoire. Alors, juste pour citer quand même le classement de nos auditeurs. Premier, Sébastien Vettel.
Ça dépend, ils ont mis Buemi ou pas?
Il y en a qui ont mis Buemi, il est dans le classement. Mais il y a une place plus modeste. Donc, nous avons placé exactement le même podium, puisque Vettel est devant Kobayashi et Button. Hamilton, qui est sixième dans notre classement, est quatrième dans le leur, hein, grâce à deux citations à la deuxième place, de Sato et de Bertaio.
Ouais.
Weber est cinquième dans leur classement, à la même place que dans le nôtre. Buemi est placé en sixième position, alors que dans l'autre, il est quatrième. Il a reçu notamment deux septièmes places, deux cinquièmes places et une sixième place. Heidfeld est septième, comme dans notre classement. Raikkonen est huitième. Grâce à Globen.
Iceman Air.
Grâce à Globen. Même pas Iceman Air lui a pas donné de points. Le seul qui a donné des points, c'est Globen, pour le remercier de son passage chez Ferrari. Donc, Trulli dans leur classement est 9e, alors que dans notre, il est 8e. Barrichello 10, Grosjean a été classé une fois par Globen, qui avait un petit peu un classement de la saison, lui, juste pour sa présence en Formule 1. Kubica et Alonso terminent le classement.
Moi, je demanderais quand même que l'an prochain, que l'on on désigne le podium et les points, mais vraiment en fonction de ce qu'on pense et non pas en fonction de la place qu'on va obtenir au final.
Mais je n'ai pas...
À bon entendeur, salut.
Donc, les faits marquants du Grand Prix, messieurs, et on va d'abord revenir sur le fait marquant de la semaine dernière.
Ah, t'es fier, hein.
Ah, je suis très fier.
Tu l'as encore truqué?
Je suis d'autant plus fier, je noterai même pas la remarque.
Oui.
Je suis d'autant plus fier que la semaine dernière, si vous vous rappelez bien.
Et je me souviens de la remarque.
J'ai même pas fait le coup de vachard de dire, je vais reprendre comment ça s'appelle? La bande, hein. D'ailleurs, ça a été noté, je crois, par, je crois que c'est Globen, ou, ouais, je crois que ça doit être Globen, qui a fait la remarque, comme quoi Enzo,
moi?
Ta certitude de victoire n'était pas bien placée.
Tout le monde peut se tromper.
Donc, Shinji, tu nous donnes les énoncés, s'il te plaît.
Donc, les débuts en fanfare de Kobayashi.
Ouais.
13 votes, 52%. Hein, comme quoi, hein, ça suit pas les votes des auditeurs. Deuxième, mais bien non, lui, il a voté 4 fois, donc on sait ce que ça vaut. Hein. Kovalainen qui s'enflamme au stand. 28% et 7 votes. Et donc, troisième, et on sait tous dans nos cœurs que ça vaut au moins une deuxième place. Les qualifs à la durée record, 20% et 5 votes.
Donc, messieurs, le fait marquant de la course, on va commencer par Shinji.
Encore, c'est tout le temps.
Troisième, c'est lui qui perd.
Qu'est-ce que je vais mettre?
En attendant que Shinji vous trouve un fer macro.
Ah, oh, je vais mettre le final Weber-Button.
Le final Weber-Button. Ok. Enzo.
Le dépassement de Kobayashi sur Button.
Ok. Et moi, je vais mettre, comme fait de la course, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Le premier abandon sur casse technique de Lewis Hamilton.
T'as aucune chance.
Oui, mais tu sais, je reste sur plusieurs victoires.
Ça dépend.
Tu sais que je travaille pour toi quand je dis ça.
Bah oui, les gens se disent rien que pour faire chier Enzo, on va voter pour Yannick.
Bah bien sûr.
Mais non, mais
Chier Enzo, il pourrait tout à fait voter pour moi.
Oui, mais non.
Donc, les podiums du championnat, s'il te plaît, Shinji.
Donc chez les pilotes, hein, Jenson Button 95 points, et finalement, c'est Vettel qui finit vice-champion, 84 points à 11 points seulement. Ce qui est pas, finalement, évidemment, ces dernières années, on a été habitué à des écarts beaucoup plus petits. Mais, 11 points, c'est pas si loin que ça.
11 points, c'est bien.
Ouais, hein. Quand on pense que Vettel n'est pas rentré dans les points 5 courses cette année.
Quand on pense au point qu'il a perdu en début de saison.
Oui, ou même, c'était où, vous savez, il est parti en tête, et puis il a fait juste une toute petite erreur, il s'est fait doubler, voilà, 2 points.
L'accident bête avec Kubica en Australie,
voilà.
On a pu marquer 6 points.
Terrible, terrible.
Avec des 6, on refait le championnat.
Ouais. Et donc, Rubens Barrichello, 3e, 77 points. Et 4e, Mark Webber, 69 points et demi. Et à noter, parce que un
des seuls enjeux.
Voilà, des enjeux, c'était McLaren-Ferrari. On s'attendait à un truc de malade, un truc de fou. On va finalement, Kimi, il a fini hors des points, et puis Hamilton, il a pas fini la course. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un statu quo. 49 points pour Lewis Hamilton et 48 points pour Raikkonen.
Et on remarquera encore que depuis 3 ans, entre Ferrari et McLaren, la position...
Toujours un point.
Ah ouais, c'est fou ça.
Chez les constructeurs, donc Brown Mercedes 172 points. Alors là par contre, l'écart avec Red Bull est un petit peu plus conséquent, puisqu'ils ont 153 points et demi. Donc ils finissent à un peu moins de 20 points. Troisième, mais largement derrière. Donc McLaren 71 points et Ferrari 70 points. Donc il n'y a pas eu de changement. À noter que BM est passé devant Williams. BM a marqué 36 points et Williams 34 points et demi.
Williams qui, rappelons-le, avait dit, je crois, après Monaco, hein, notre objectif c'est de finir devant Ferrari.
Ah, ça te fait plaisir ça.
Ouais, un peu.
À noter que les 10 écuries cette année ont marqué des points.
Ouais.
À noter quand même dans le classement 2009, vous vous rappelez, on avait fait un petit concours.
Ah oui.
Hein, de pronostics. Alors j'ai pas les résultats sous les yeux, je connais le classement. Je peux déjà vous dire que, et ça va l'attrister, c'est que c'est Iceman Air qui finit en dernière position.
Pardon.
juste devant Stéphane. Que le grand vainqueur de ce jeu, oui, c'est moi-même. Qui est correctement pronostiqué les 4 premiers.
C'est ça surtout qui a beaucoup influencé.
Et donc ça se joue, attention, ça se joue entre Shinji et Globen pour la deuxième et troisième place. Donc qui va remporter le DVD?
Ah, tu te l'envoies pas?
Hein? Bah non, moi je suis hors catégorie, c'est moi qui organise.
Shinji aussi?
Non, Shinji il n'organise pas concours, il y participe.
Attends.
Et donc c'est Shinji qui gagne le DVD puisqu'il est deuxième. C'est le seul après moi à passer au-dessus de la barre des 400 points. Donc Shinji, tu as remporté ce DVD.
Ce DVD que j'ai déjà.
Que tu as déjà.
Que j'ai déjà. Donc comme je l'ai déjà, je vais pas en prendre un deuxième parce que bon, à la rigueur, je pourrais toujours le revendre sur eBay.
Ah c'est bravo.
Mais bon.
C'est très fort. Bravo.
Voilà.
Un bravo. Dire que tu l'as déjà pour pouvoir l'offrir à Globen, moi je trouve ça très fort. Bravo.
Donc tu l'offres à Globen?
Bah oui, je l'offrirai à Globen, à moins que Globen l'ait déjà.
Donc je vais non, Globen ne l'a pas.
Bah voilà,
il va Stéphane prendre... l'avait mais Globen ne l'a pas.
T'as de la chance Globen d'avoir. Donc,
attention Globen, si tu l'as, c'est Iceman Air qui est dernier qui le gagne. Donc bah félicitations Globen, voilà, c'est, il a quand même fait un bon score, je crois qu'il doit être à 390 points, vous aurez le détail
je
pense après la diffusion de la mission. Donc voilà. Donc on passe à une question que j'ai oubliée mais que j'ai pas oubliée parce que c'est fait exprès parce qu'elle est à cet endroit-là puisqu'on parle des championnats. C'est la question historique.
Ah bah oui.
Avec le petit jungle.
Le jungle.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question historique. La question que si tu réponds pas, t'es aussi bon qu'Yannick.
Alors messieurs, question historique. C'est pas deux questions historiques, c'est une question historique en deux parties, donc vous pouvez tous les deux participer à cette question. Plusieurs fois au cours de la retransmission, et d'ailleurs du week-end, puisqu'il se répète, notre ami Christophe Malbranck nous a amusé avec cette petite coïncidence, à savoir que ça fait deux années de suite qu'un pilote anglais est titré avec le numéro 22.
Mm-hmm.
Lewis Hamilton en 2008, et donc cette année, Jenson Button, avec le numéro 22. Ma question est toute simple. Un autre pilote a déjà été titré avec le numéro 22. Et sans vous servir d'internet, messieurs, je vous demande, quel est ce pilote?
22?
Le 22.
C'était déjà un gars qui était super, enfin, qui était dans une équipe très mal classée?
Bah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'est les numéros, ils étaient pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'ordre.
C'est pour ça que je demande déjà, oui, voilà.
En fait, t'avais les grosses écuries, c'était 1 et 2, c'était 5 et 6, c'était 27, 28, et c'était aussi 19, 20.
Voilà.
Et t'avais 12, 11 et 12 aussi.
Voilà.
Donc 22, oui, effectivement, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas. Donc c'est pas dans les années 90, c'est pas dans les années 80.
Plus. Ouais.
J'ai bon pour l'instant?
Pour moi, t'es bon, ouais.
Et donc, c'est vieux. Ça date.
Donc, c'est 60 ou 70.
Voire plus vieux encore.
Non, je pense pas.
Ouais.
On a bon?
Ouais, il y en a un de vous deux qui a bon.
Ouais, enfin, si on dit toutes les décennies, forcément.
Non, je dis 60 ou 70, pas 50, à mon avis.
Eh ben, tu as tort.
Ah,
c'est 50.
C'est 50. Eh bien, on va dire... Fangio.
Eh ben c'est Fangio.
Non. J'avoue, c'était quand même facile, sachant que c'était dans les années 50 et que Fangio a été titré 5 fois, j'avais une chance sur 2.
Voilà.
C'est vrai.
Donc c'est effectivement Fangio à une époque où on peut pas dire qu'il avait le numéro 22, mais était-ce véritablement le numéro 22 comme nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le synonyme de la 11e voiture, la 11e écurie? Puisqu'il n'y avait pas le classement constructeur, on peut pas le savoir.
Bah, je sais pas, c'était en quelle année.
Ce qui est très drôle, c'est qu'il a été titré deux fois avec le numéro 22, en 51 et en 56.
Ouais, donc à la rigueur, peut-être la première fois, mais après...
Celui qui gagnait le titre récupérait le 1 et filait son ancien numéro à celui qui l'avait perdu.
D'accord.
Et son coéquipier héritait de la voiture d'à côté du moins le numéro qu'elle avait, quoi.
D'accord. Ça, c'est une bonne info, ça. À noter que, dans le lot, Fangio est le seul véritable numéro 22.
Bah oui. Parce
que, rappelez-vous, Lewis Hamilton n'est pas véritablement un numéro 22.
Oui.
C'est un numéro 3, puisqu'il avait terminé avec McLaren en deuxième position au championnat constructeur. Donc, voiture numéro 3 et voiture numéro 4 pour Heikki Kovalainen. Et que cette année, si vous vous rappelez bien, Jenson Button...
Honda avait
oui. aurait dû être numéro 18.
Voilà, c'est ça.
Puisque Honda avait été 9e, sauf que la FIA et Ben Nicholson avaient considéré que Honda Brown était une nouvelle structure, que ce n'était donc pas Honda, donc elle ne pouvait pas récupérer l'historique de Honda, ni l'argent qui allait avec la 9e place. Et donc, on avait demandé à Brown, quelques jours avant le Grand Prix, de changer de numéro. Ils avaient pris le 22 et le 23. Alors ma question, c'est quel est, en plus d'avoir le numéro 22, quel est le point commun que partagent Fangio, Hamilton et Jenson Button?
Le moteur Mercedes?
Alors oui, ouais, ça serait un point commun, effectivement, mais c'est pas le seul.
C'est pas le seul.
Ils ont gagné au Brésil.
Non, parce que Fangio, il n'y avait pas le Brésil à l'époque. Non,
non ils n'ont pas... Le nombre de victoires?
Non. Enfin, peut-être, mais c'est pas ce que je pense.
Non.
Pensez bien au domaine dans lequel on est depuis tout à l'heure.
Les numéros.
Ouais.
Ben...
Et on va voir si vous m'avez écouté. Parce que directement, dans la discussion, je vous ai donné un indice.
Si on devait écouter tout ce que tu disais.
Ah oui?
Ça ferait beaucoup de choses à mémoriser.
Sur le fait que les deux derniers, c'était pas le, ce sont pas des vrais 22, c'est un lien avec ça?
Non.
Non.
C'est un lien avec le 22. Et avec ces trois pilotes.
Ils ont tous gagné leur premier titre avec le 22.
Bah voilà, bravo Shinji. Ils ont tous les trois gagné leur premier titre avec le 22. Fangio en 51 gagne son premier titre avec le numéro 22. Il en gagnera 5 ensuite. Hamilton est titré avec le numéro 1, le numéro 22 pour son premier titre. Hein, et on lui promet quelques titres. Quid de Bolton, qui est donc titré avec le numéro 22, et qui ça, on lui promet que ce sera son seul titre. Mais il a bien,
c'est pas bien sympa ça.
Non.
C'est
on lui promet, je parle de l'ensemble des analyses dans leur majorité.
Oui, oui, je suis bien d'accord. Mmh. Voilà. Et pour info, Shinji en 51, Fangio était champion du monde sur Alfa Romeo, pas sur Mercedes.
Ouais, non, mais.
Ah, Shinji, pas bien. Ça.
Non, parce que je
pensais pas que c'était champion du monde, c'est le fait de rouler sur Mercedes en fait.
Ouais.
Ah, à une époque.
Voilà. D'accord. Voilà.
Donc, messieurs, nous passons au drive-thru.
Yes, oui. Drive-thru of the
road. Yes.
Attention au générique.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors, messieurs, vos drive-thru. Moi, j'en ai un tout frais, tout chaud.
Moi, j'en ai un.
Et je pourrais même le faire en premier vu que.
Moi aussi.
Moi aussi.
On n'a pas envie de se le faire piquer.
Donc
je vais commencer.
Comme c'est moi, chef de l'émission.
Non.
Je vais le faire en premier.
Oui.
Comme ça, je suis sûr de l'avoir. Donc, mesdames et messieurs, grâce à mon abus de pouvoir, vous allez pouvoir assister à une première historique dans toute l'histoire du SAV.
Putain, l'enfoiré, ça va être le même que le mien.
Vous allez avoir... pour deux émissions de suite, animateur qui va vous donner le même drive-thru. À savoir un drive-thru contre Yarno Trulli.
Ah, donc voilà.
C'était pas le tien, Enzo.
Non.
Et je sais que c'était pas celui de Shinji, puisque Shinji, je lui avais dit qu'il serait mon drive-thru.
Ouais.
Donc, pourquoi Yarno Trulli, me direz-vous ?
Ce qui est con.
Parce que, monsieur Yarno
Trulli, voilà.
C'est, comment dire, je dirais,
oui, bah, c'est ridicule, parce qu'il est con.
C'est ridiculisé en conférence de presse vendredi. En venant remettre le couvert avec Adrian Sutil, en pleine conférence de presse, avec à l'appui des photos, pour montrer à la presse du monde entier qu'il avait raison. Voilà. Et, ils se sont frités. Il a rappelé que Sutil avait tort. Sutil, assez fort dans les déclarations, s'est révélé. Lui, Sutil, qui a l'air comme depuis le début, quelqu'un d'assez calme, d'assez posé, d'assez... diplomate, hein, a lancé quelques piques, et notamment une pique que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, hein, c'est même pas un drive-thru à l'émission, ce serait pas un drive-thru contre Trulli, ça serait un applaudissement énorme sur Sutil, qui a dit grosso modo que depuis le temps qu'il était en Formule 1, il était peut-être temps qu'il ait appris à savoir comment on se comporte sur la piste, quoi. Donc voilà, ça a été la stupidité de Trulli, et je sais pas, ça sent le ça sentait déjà il y a 15 jours
ça sent la fin de carrière.
Et là, ça sent la fin. Ça sent le mec qui sent que c'est fini.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Alors, ensuite, Drive.
Je vais y aller, puisque ouais. C'est que je dis rien.
Bah non, je sais pas.
Et bah, moi, mon drive-thru, je vais être très original aussi. C'est une première historique. Je me la pète, moi aussi. Hein. Mon drive-thru est contre le SAV de la F1.
Oh. On l'a pas déjà fait, ça?
Oui, non. Oui, je crois que c'est moi qui nous ai mis à nous-mêmes en drive-thru. Approfondis, je suis curieux.
Vas-y, ouais.
Eh ben, parce que, à l'avance, on avait beaucoup trop critiqué le circuit d'Abu Dhabi.
J'étais sûr qu'il n'y en aurait rien qui ferait ça.
Et je trouve que finalement, on a eu une course pas désagréable. Et moi, personnellement, je m'attendais à pire. Mais franchement pire. Donc, ça a été plutôt une bonne surprise.
Ouais.
Donc voilà. c'est juste un drive-thru pour que on se dise attendons avant de juger.
Au nom du SAV de la F1, Enzo, j'assume complètement ce drive-thru et je te remercie de nous avoir remis dans le droit chemin.
En même temps, ça ne nous empêchera pas à l'avenir d'avoir des conclusions hâtives. Hein.
Mais voilà.
Et ben, tu te retiendras un peu plus.
je pense que Vettel sera champion du monde cette année.
Alors, ça, c'est assez petit.
Alors, j'ai ton drive-thru.
Ah oui, mon drive-thru. Alors, ça va être contre un pilote. Enfin, c'est pas un méchant drive-thru, hein.
Non.
C'est, oui. Parce que, et là, j'en...
Pas Bumi.
Ça n'est pas Bumi. C'est l'autre.
Adversary.
Oui.
Qui chante de stand.
Oui. Alors, parce que, Et là, j'en appelle à Enzo, qui est notre bibliothèque historique. On a eu plein de, hein, on a eu quand même plein de choses, hein, dans les stands. On a déjà eu Hamilton qui se plante dans un bac à gravier. On a déjà eu des pilotes qui oublient de rentrer au stand. On a déjà eu des pilotes qui rentrent au stand sans s'arrêter. On a déjà eu des pilotes qui redémarrent alors qu'ils devraient pas redémarrer. On a déjà eu des pilotes qui redémarrent pas alors qu'ils devraient redémarrer. On a des pilotes qui se sont percutés. On a eu des pilotes qui se sont enflammés.
Oui.
Mais alors là.
Si.
Un pilote. Alors, c'est pas ça que
si, si. Ça va. Je suis désolé de te le dire,
mais. J'attends le allez-y ou un truc dans le genre.
Non, non.
Pour savoir, je te posais la question. Voilà. On.
Non, je.
Vas-y.
Je peux pas te dire qui c'est, mais c'est déjà arrivé.
C'est arrivé.
De mémoire, c'est. C'est un pilote qui s'est mis dans le stand de son écurie de l'année d'avant. Je me demande si c'est pas physiqué là.
C'est encore plus con. Cette année, il s'est pas mis chez Force India.
Non, non, mais c'est déjà arrivé pour un fou.
Voilà. Donc, voilà. Alguer serait quand même qui, je veux dire, c'était pas vendredi, parce qu'à la limite, vendredi matin, il découvre un nouveau circuit, il y a des nouveaux emplacements, c'est une nouvelle piste et tout. Ok. Il commence pas dans une nouvelle écurie. Je veux dire, l'écurie Toro Rosso, elle est là depuis le début de la saison. Red Bull, ils sont là.
Oui, mais ils sont habillés pareil, ces cons-là.
Ouais, alors, ils sont habillés pareil. Puis en plus, faut quand même rappeler, ils ont deux stands l'un à côté de l'autre.
Mais c'est pas le premier jour il a fait ça dimanche, quoi.
Ouais, mais est-ce que par hasard, comme apparemment il avait des problèmes, est-ce qu'il cherchait pas à abandonner, puis quand il est arrivé dans la pit lane, il a vu?
Non, non, c'est pas non. Ça du tout. C'était la dernière course de la saison, et chez Red Bull, c'est des gros déconneurs, ils se sont dit, on va changer de stand.
On va changer de stand, comme ça.
C'est juste ça.
C'était magnifique de le voir. Il commence à se garer, puis t'as les gens de Red Bull qui font « Mais casse-toi !» Parce qu'en plus, il y avait
le gars qui tenait le... qui a le lève voiture, il a super bien réagi quand même.
Oh, bah oui.
Ah oui, oui. Ah oui, parce qu'il a à peine freiné, je veux dire, il a redémarré tout de suite, Alguer Sarri. Mais c'était un peu le moment comique de la course.
Non, mais je pense que c'est ça qui était drôle, c'était... Moi, j'imagine Alguer Sarri rentrant avec sa voiture en disant « Ouais, je vais retrouver mon équipe. » Et il arrive et puis il fait « Tiens, c'est bizarre, mon changeur de pneus... »
Ils sont pas exactement les mêmes.
Avant-gauche, il est pas moustachu. C'est bizarre, il y a un truc de problème. Vite, accélère.
Et du coup, il est tombé en panne d'essence, non?
Sa boîte à cause de vitesse a lâché dans le tour. Il est ressorti et dans le tour, sa boîte de vitesse a lâché. Donc voilà, c'était pas un drive-through méchant. C'était drôle, c'était plus drôle qu'autre chose. Bon, c'est dommage pour Alguer Sarri parce qu'il a abandonné dans le tour suivant.
Donc, eh ben, il nous reste plus que le concours top pas position. Et j'insiste bien, le concours top pas position. Alors, Shinji, la dernière question en date.
Donc, les questions.
Oui.
Donc, ah oui, c'est vrai. Attention, il n'y a pas de réponse à ta deuxième question, donc.
Personne n'a répondu?
Non. Ah oui.
Ah, c'est dommage.
C'est dommage, hein. Il aurait gagné un voyage pour le premier Grand Prix d'Abu Dhabi.
Ouais.
Ouais.
Le deuxième, vu que c'est en retard.
Non, le premier. Un voyage pour le premier.
Oui, pour le premier, pour le premier.
Donc, la question du Brésil. Quel pilote a été la victime involontaire de l'accrochage entre Trulli et Sutil? Et donc, cette pauvre victime involontaire, hein, déjà qu'elle a la belle saison de merde quand même cette année, hein, c'est Alonso.
Il a pas eu une saison de merde, je suis désolé, il a signé chez Ferrari.
Ouais, mais à part ça, il a dit lui-même que c'était la pire Renault qu'il avait conduite. Donc, on a 5 bonnes réponses.
Waouh!
Ont bien répondu Maël, TNT, Berthaillot, Sato et Globen.
Oui. Donc, je fais le tirage au sort. Alors attention, Shinji ou Enzo, vous avez le choix entre le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 6. Vous attendiez 5, mais je me suis dit non, je vais faire 6.
Est-ce qu'on peut choisir le 7?
Non. Alors.
Moi je dis que le champion du monde c'est le 22, donc 2.
Et c'est Sato qui gagne. C'est une première d'ailleurs, je crois.
Ah bah tu vois.
Ah ouais, voilà.
Première pour la dernière, c'est chouette. Donc bravo Sato, hein. C'est bienvenue dans le clan très fermé des vainqueurs, fermé grâce à Globen qui gagne souvent. Très fermé des vainqueurs de magnettes, hein, qui vont polluer ton frigo au cours des prochaines années.
Globen, si tu peux nous envoyer une photo des magnettes sur ton frigo.
Ah ouais. Non, sérieux.
Elle est sur... C'est-à-dire, et ceux qui ont gagné des manettes, si vous avez des photos avec les manettes...
Ah ouais, sérieux, envoyez-nous votre frigo, ça nous ferait tellement plaisir.
On les mettra sur le site. On les mettra sur le site.
Voilà, ouais, ouais, on fera un concours.
Et celui qui a fait la plus belle photo gagne un magnette de 4 mètres sur 3.
Surtout que il faut dire ce qui est nous on les a plus les magnettes, donc on pourra pas les montrer aux autres auditeurs qui vont peut-être envie de se dire peut-être qu'on participe mais on voit pas les magnettes, on sait pas sûr, ça se trouve c'est des magnettes de merde et ils verraient les magnettes, ils diraient c'est des beaux magnettes.
Ouais, fait avec amour, faut le dire.
Voilà, fait avec amour par l'imprimante d'Enzo. Donc la nouvelle question du concours.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position présenté par Enzo. Heureusement qu'on coupe au montage, sinon ça serait aussi long qu'un tour de Lucas Badoer.
Bonjour et bienvenue à tous au concours Pas Top Position. Vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix d'Abu Dhabi. Répondez maintenant à la question qui vous est posée afin d'avoir la chance de gagner un magnifique magnète. Quelle particularité avait le dessus du casque de Button pour cette dernière course de la saison? Répondez à cette question en utilisant le formulaire contact du site du SAV www.savf1.fr.nf. À l'année prochaine pour les prochains concours Pas Top Position.
Vous êtes passé le mot?
Pourquoi? Même pas.
Mais le problème, c'est qu'on a un problème.
Which one?
Bah, on a posé une question, mais on sait pas quand on va donner la réponse.
C'est vrai.
On la verra sur le site.
On la verra sur le site. Mais non, mais ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une petite émission bilan.
Une émission bilan,
oui,
ouais.
Parce que, bon, on sent nos auditeurs là sont bon, globaines. Ouais. Ils demandent si on aura des émissions pour l'intersaison, parce que l'intersaison est longue.
Oui, elle est longue.
On peut peut-être refaire une petite émission, un bilan.
Je sais pas, moi, une petite émission.
Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire.
Non, mais on va essayer. On promet pas de faire des émissions pendant l'intersaison. On fera sans doute une émission bilan sur le championnat.
Sur la saison,
le championnat 2009. Dans les prochaines semaines, d'ici la fin de novembre, et on reviendra aussi sur les actus qui ont animé le mois de novembre. Donc, on fera diverses annonces à ce moment-là.
Enfin, il y aura un truc de toute façon.
Voilà. On fera aussi une émission comme on l'avait fait cette année, une émission de pré-saison, enfin d'introduction à la saison, une espèce de guide du SAV. Une dizaine de jours, une quinzaine de jours avant le premier grand
prix. Ça sera début mars.
Voilà.
Ouais.
Et entre deux, on a pas mal de choses pour s'occuper, hein.
Nous
déjà, se faire beau et tout. Côté SAV, on va peut-être, pourquoi pas faire essayer de réfléchir à un petit format d'émission régulier. Voilà, faut qu'on y réfléchisse. Mais on a un gros chantier dont va nous parler Enzo, je pense, parce que c'est peut-être celui qui est le mieux à même d'en parler. On a un gros chantier.
Ah bon?
Et dont on peut déjà vous annoncer quelques prémices.
C'est toi Enzo, le pro du PowerPoint.
Voilà.
Non, mais faut pas trop en dire, mais voilà, il y a du regroupement dans l'air.
Disons qu'il y a des choses qui ont déjà été évoquées.
Oui, voilà, oui. Voilà. On l'a plusieurs fois évoqué. Maintenant, il faut une vraie exclue, quoi. Il faut vraiment que tu nous donnes des infos. Alors déjà, on peut vous dire que, quoi qu'il arrive, on sera là en 2010.
Alors, il est question de regrouper sous une même bannière toutes nos activités.
Oh non!
Voilà.
Qu'est-ce que t'as dit?
Non, rien.
Je n'ai pas compris.
J'ai dit, non, mais c'était juste pour faire genre, faire blague.
Moi, je pensais que tu disais non, mais par rapport à un truc complètement rien à voir.
Oui, parce que je suis aussi en train de regarder autre chose, mais c'est normal. Donc voilà, donc on vous souhaite une bonne intersaison, en espérant d'abord que le SAV de la F1 vous...
Eh bien, on a perdu Yannick, là?
Je sais pas. Il vient peut-être de s'étouffer avec ses cacahuètes.
On en profite. Donc, chers auditeurs, nous allons profiter du fait que Yannick ait un problème
technique. Que Yannick ferme sa gueule.
Voilà.
Bah, ça se voit que Yannick est revenu aux commandes.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.